comment le wokisme a conquis la France ? Transgenrisme, sans-frontiérisme, sont-ils promus par Davos afin de diviser les populations ? Le wokisme nous amènera-t-il vers la guerre civile ? Toutes les réponses à ces questions avec le journaliste et spécialiste Jean-Michel Vernochet. Vous êtes sur Je Petit Profonde, générique.
Nous sommes en guerre.
Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, c'est sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, vraiment, ce sera spécial thématique, wokisme. Le wokisme, malgré tout, a conquis ce pays. On le voit de plus en plus, des jeunes aux cheveux bleus, aux cheveux verts et rouges. Donc on va parler de tout ça avec le journaliste spécialiste du Figaro, anciennement au Figaro, à VSD, hebdo que je lisais très souvent à l'époque. Je crois que ça n'existe plus d'ailleurs, je crois, VSD. Parfois aussi, vous étiez à RT. Jean-Michel Vernochet. Bonjour, cher Jean-Michel Vernochet. Oui. Comment allez-vous ?
Ben écoutez, pas trop mal. Bon, bonsoir à toutes, à tous. Bonsoir à vous, Mike, et à toute cette jolie tablée.
Alors, vous avez écrit « L'Empire du mensonge et une nouvelle dictature »,« Le signe de la bête ». J'aime bien ce titre-là, le signe de la bête avec le QR code. Ce QR code qui participe aussi à une forme de mondialisme.
J'ai eu un merveilleux suiveur en la personne du président Poutine qui a repris non seulement le terme, mais l'expression, l'empire du mensonge. Mais si on est juriste, on peut dire qu'on vit sous l'empire du mensonge, et également on peut dire par ailleurs qu'on est dans l'empire du mensonge. Moi je le constate tous les jours que Dieu fait, on ment, à tour de bras. Et alors ce qui est très intéressant, parce que je suis un adepte de LCI, de temps en temps...
Là-bas ils mentent un peu quand même.
Un peu beaucoup. Un peu. Mais de temps en temps, je vois des hommes extrêmement intelligents qui descendent dans les sentines, si je puis dire, de la manipulation d'informations, du mensonge. Mais de temps en temps, ils ne peuvent pas s'empêcher, il y a un truc qui fuse, il y a un moment d'authenticité, à un moment donné, ils retrouvent leur vraie personnalité. Ils sortent de leur rôle convenu, officiel. Ça, ce sont des moments très intéressants et très riches, ce sont des petites pépites que l'on peut récolter chaque soir si on s'en donne la peine. Enfin, c'est un peu astreignant, il faut un peu de masochisme aussi pour ça.
Ben oui, on a reçu ici par exemple à Madame Alapouedi de LCI. Oui. J'ai reçu même plusieurs fois d'ailleurs, en débat, je l'ai mis en débat, et même si au demeurant elle est dans la vie privée assez sympathique, en débat, voilà. Je pense qu'il faut pas, bon plan. Mais oui. Dites-moi, j'ai parlé de cheveux bleus, cheveux roux, cheveux verts, bon, comme une boutade, mais le wokisme, c'est pas que ça.
Ah ben, c'est évidemment pas que ça. Si ce n'était que ça, ça serait plutôt
amusant. Ce serait drôle.
Ce serait gentil. De mon temps, dans ma jeunesse, on portait les cheveux longs. Alors ça... Il y a même des villages où on vous conduisait chez le coiffeur, où les gendarmes vous conduisaient aimablement chez le coiffeur, parce que ça choquait. C'est aussi l'époque des pattes d'ef. Donc tout ça n'est pas très grave, les apparences. Mais je pense que le mal est profond, et c'est un mal qui creuse un peu aussi, qui pourrit les chairs de l'esprit, parce que l'esprit, c'est, on peut parler de chair, ailleurs. Et c'est une gangrène, c'est une lèpre, ça vous ronge. D'ailleurs, il y a une sorte de lèpre qui vient, pas de lèpre, qui vient d'émerger au Japon. Les antibiotiques sont inopérants et ça ronge la viande. Et malheureusement, le wokisme n'est pas quelque chose d'anodin. Alors, ce n'est pas une mode. Justement, si c'était des cheveux bleus seulement, ce n'est pas une idéologie seulement, c'est beaucoup plus que ça, c'est une religion. Et vous avez très bien, tout à l'heure en présentant, et je vous rends la parole, cher Mike, vous avez très bien, c'est un sous-ensemble, au fond, du processus de modernisation. C'est un des instruments de la mondialisation, du globalisme, et je vous en donne un exemple. On n'y pense pas souvent, mais les gens comme Yuval Noah Harari, les gourous, les grands gourous théoriciens du transhumanisme de la Silicon Valley, il y avait aussi ces fameuses tables de la loi qui ont été dynamitées depuis, on parle que de dépopulation. Eh bien, le wokisme est un moyen, est un instrument parmi d'autres, peut-être avec la vaccination, mais on va dire que je suis complotiste, ce qui est vrai. Un instrument de dépopulation, puisque on engage les gens à ne plus se reproduire, et la production, vous le savez, on le dit, il va y avoir des masses immenses d'inutiles, improductif, puisque ce sont les robots, les machines et l'intelligence artificielle qui prendra le relais.
Alors, on va en parler, on va bien définir ce qu'est le wokisme, parce que chacun a visiblement ça aussi sa définition, donc on va bien le définir ici, on va vraiment parler en profondeur, comme on le fait dans chacune des émissions. Mais avant ça, je vais faire le tour de table et présenter nos amis qui sont avec nous. Alors, Stéphanie Reynaud, comédienne, journaliste indépendante à Tribune Libre. Comment ça va, chère Stéphanie ?
Ça va très bien. Je suis ravie d'être bien entourée d'hommes. Je n'aurai rien contre un plateau de femmes un jour, mais je suis
mais c'est
très,
déjà
très bien entourée.
Oui. J'ai déjà eu des plateaux de femmes.
Ah oui, il y a eu. Bah, j'ai eu une fois. Voilà. Oui, j'ai eu un plateau de femmes, mais voilà. Qui a été discret, on va dire. Enfin, la vidéo n'est pas restée sur YouTube.
Mais les femmes parlent moins, je trouve. Elles ont moins envie de dire des choses et de venir en plateau. Je sais pas pourquoi.
Ah bon ?
Oui.
Ah, y en a quelques-unes quand même.
C'est quand même plus rare.
Plus rare.
C'est quand même plus rare.
Ah bah alors, venons en masse.
Surtout que les femmes veulent parler de leur spécialité. Elles ne veulent pas parler d'autre chose.
Ce qui est peut-être plus prudent
au
que ce que je fais,
toi.
Je ne sais
au
pas. Alors moi,
toi.
J'ai un esprit curieux, je ne suis absolument pas experte en tout, c'est très clair, il faut bien le dire. Mais mon média fait que je vais vers des gens qui sont experts et qui m'apprennent beaucoup de choses. Donc avoir un média indépendant, c'est aussi une très bonne manière de maintenir son cerveau, d'échapper à Alzheimer et d'entretenir ses neurones et sa curiosité. Et donc le wokisme, oui, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc moi, j'ai dit oui à ton invitation. D'autant plus que je reçois demain pour Tribune Libre Ariane Bilran avec sa Bible.
On salue, évidemment.
Voilà, elle est extrêmement pointue. Et on va parler de psychopathologie du totalitarisme, qui est un peu la Bible du totalitarisme. Et il y est question de la déconstruction de l'identité, de faire table rase du passé, de déconstruire les genres, etc., de déboussoler tout le monde. Et donc, cette déconstruction du langage aussi, etc., l'écriture inclusive. Eh bien, le wokisme, forcément, est cité dans l'affaire, c'est imparable. Voilà. Donc,
merci beaucoup, chère Stéphanie. En face, nous avons notre ami Jean-Luc Robert, psychologue, qui a écrit « Je n'aime pas ces frites-là ». Alors, on pourrait trouver ça comme une boutade, mais en réalité, c'est un livre qui parle justement de wokisme, mais aussi de ce que vivent les parents chaque jour.
Oui, voilà. Donc effectivement, on doit se demander forcément quel est le lien entre le wokisme et l'éducation. Alors j'essaierai de le faire ce soir. Je suis psychologue spécialisée...
Un petit aperçu.
Je suis psychologue spécialisée dans les troubles du comportement de l'enfant. Et effectivement, moi, je me rends compte que dans ma clinique, ça commence un peu aussi à infiltrer. Et puis dans ma vie de tous les jours, alors j'en parle beaucoup autour de moi, hein, à mes amis, à mes relations, et j'ai l'impression que la plupart des gens dorment, ne se rendent pas compte. Et c'est un peu paradoxal pour le wokisme qui signifie être éveillé. J'ai l'impression que face à cela, nous sommes tous en train de dormir. Enfin, moi, non, peut-être pas. Mais à chaque fois que j'en parle, on me dit, mais mais t'es obsédé par le wokisme. Je dis, mais tu vois pas qu'il est un peu autour de nous comme une forme de contagion. Alors dans l'éducation, ben pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est une forme d'endoctrinement qui va passer par l'éducation la plupart du temps. Et souvent, ben l'éducation sont quand même les plus fragiles d'entre nous, c'est-à-dire les enfants qui doivent effectivement l'avoir à l'école. Et donc il y a une forme d'entrisme du wokisme à l'école par les lobbies LGBT et tout ça, comme vous le savez. Et c'est compliqué parce que les jeunes n'ont pas tout leur discernement face à cela. Et donc ils se laissent endoctriner par cela. J'écoutais récemment, alors on en parlera, mais dans le magazine Livre Noir, notamment le livre qui est sorti là récemment.
Transmania.
Transmania. Donc les autrices en parlent, on en parlera, mais elles disent à quel point cet endoctrinement a lieu à l'école et dans toute la vie ensuite, par la suite. Et donc moi, mon combat en tant que psychologue et en tant que même citoyen, c'est aussi d'éveiller les consciences et de dire que c'est dangereux pour les enfants. Que deviendront-ils ? Vous m'aviez reçu pour l'émission, on a parlé de SOS Éducation, on parlait de ces questions du transgenrisme et de l'évolution, et puis que c'était quand même des mesures gouvernementales qui étaient prises à l'éducation nationale pour pouvoir enseigner ces choses-là, et que c'était toujours sous couvert de bienveillance.
Merci beaucoup, cher Jean-Luc. On va en parler, vous inquiétez pas, vous allez avoir la parole. Et à votre droite, nous avons notre merveilleux Philippe Perlin, économiste, spécialiste du Bitcoin, comprendre et investir. Il était ce matin chez les collègues de Radio Courtoisie pour parler de Bitcoin. Et voilà, voilà. Maintenant, le Bitcoin va devenir la mode.
Ça va devenir à la mode, tout le monde va en parler.
Voilà.
Ça, c'est clair, surtout depuis
et tout le monde halving. Va en acheter.
Le halving a eu lieu vendredi, donc c'est une date importante, ça a lieu tous les 4 ans.
Ouais.
Donc c'est un peu l'anniversaire de Bitcoin, on va dire. Voilà, ça s'est bien passé.
Alors aujourd'hui, édito sur quoi ?
Édito sur la smicardisation. C'est-à-dire le fait que de plus en plus de salariés sont payés au SMIC. Alors on va essayer
de c'est 20%, je crois.
On va essayer de comprendre pourquoi. Et puis, salaire décent, parce que Michelin a parlé de salaire décent. Donc on va voir ce que ça veut dire et ce que ça signifie. Et rapprocher un peu les deux notions. Quoi. Voilà.
Eh bien, on va en parler dans cette chronique que je suis sûr sera excellente. Donc dites-moi, voilà, le wokisme déjà, définissons-le. Alors, wokisme, comme a dit notre ami Jean-Luc Robert, c'est éveillé. Donc c'est un mot sympathique. Mais qu'est-ce que c'est exactement ?
Bah écoutez, je vais faire un peu d'histoire.
Allez-y.
Et un tout petit peu, grosso modo, un peu de philosophie. 1917, révolution. Août, révolution bolchevique. Août 1918, on invente la terreur rouge, le goulag, c'est pas Staline qui a inventé le goulag, on déporte, on massacre. À l'issue, alors on va y avoir ce qu'on appelle une guerre civile, à l'issue de la guerre civile, 40% de la classe ouvrière aura disparu. On va réinventer quelque chose, une classe révolutionnaire qui sont les jeunes. Donc déjà, on tombe dans le jeunisme. Mais dans les années 30, en Allemagne, à Francfort, il y a toute un groupe d'intellectuels qu'on va appeler l'école de Francfort qui, dans les années 30, vont passer aux États-Unis et vont ensemencer toute la pensée de la Californie, de Berkeley, entre autres, et qui pensent que le marxisme a échoué. Et c'est vrai qu'il a échoué objectivement et qu'il va falloir trouver des prolétaires de substitution. Et c'est d'autant plus vrai que la classe ouvrière, le prolétariat, a disparu, il disparaît parce qu'il y a la robotisation, parce qu'il y a la délocalisation, et on va trouver, comme substitution au prolétariat, on va trouver toutes les minorités dominées. C'est bien, il faut comprendre que le marxisme, dans sa phase, son appareillage extraordinaire, il faut pas tout jeter du marxisme. Son appareil économique, sa mécanique sociale avec une classe messianique, le prolétariat, qui va permettre le retour à l'Éden primitif ou faire venir le Messie, tout simplement. Ça ne marche pas. Mais reste l'idée de groupes dominés, et donc de groupes dominants. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, il y a des bourreaux éternels. On dit que les Blancs sont structurellement racistes, fascistes, je ne sais pas quoi, colonialistes. Et on ne peut pas d'ailleurs les rédimer, c'est-à-dire les soigner, les guérir. Il faudra les éliminer. Hein. C'est encore ce qu'il y a de mieux. Et donc, le... Il y a aussi ces éternelles victimes qui sont victimes de toujours, mais les victimes, c'est un statut qui est intéressant parce qu'à l'occasion, ça peut donner l'occasion de demander des compensations financières, des indemnisations. Donc le monde va s'archipéliser entre minorités souffrantes, victimes. Victimes, je viens de le dire, victimes éternelles, et qui sont les nouveaux acteurs de la révolution messianique qui doit nous conduire à un monde meilleur. Alors, j'achèverai ce propos liminaire en disant aussi qu'ils sont les porteurs de morale, puisqu'ils sont le souverain bien, la victime, le souverain bien, face au souverain mal, le bourreau, celui qui pourtant a construit l'histoire, a construit les pays, donc le colonisateur, l'esclavagiste, le patriarcal, le père, image, puisqu'il s'agit de récuser toute figure de l'autorité, toute figure de l'ordre. Le wokisme était profondément un désordre, un contre-ordre social. Enfin, c'est une anarchie déguisée, et même pas déguisée du tout. C'est tout le monde ancien qui doit être aboli pour qu'advienne le bonheur des hommes.
Mais est-ce que c'est aussi une déviance du capitalisme ? Est-ce que parce que le capitalisme est devenu une forme de mondialisation, et le wokisme en est apparu, quoi ?
Alors, le capitalisme n'est que, là aussi, qu'un des aspects, qu'une des versions de l'histoire. Il y a un homme extraordinaire, prix Nobel, Milton Friedman, pendant l'école de Francfort, mais en économie, qui à Chicago va théoriser l'ultralibéralisme, la déconstruction au fond de l'économie pour encore plus de liberté, laisser faire, laisser passer à l'infini. C'est d'ailleurs en cela que je le dis par boutade, je fais une incidente, quand M. Poutou du Parti des Travailleurs était candidat à la présidence de la République, il y avait des journalistes un peu facétieux et astucieux qui lui avaient dit « Mais enfin, monsieur Poutou, votre programme, c'est celui du grand capital, du grand capital financier. » Ah, Poutou, finalement, pas du tout. Il dit « Mais enfin, vous voulez la disparition des frontières, vous voulez le libre passage de tous, etc. » Ah, Poutou dit « Non, moi, je suis pour la liberté. » Ben oui, nous, on est tous pour la liberté aussi. Mais la liberté a des limites. Alors, puisque vous me mettez sur le capitalisme, juste un mot pour dire qu'il y a des gens qui ont théorisé ce qui tenait le capitalisme et qui le rendait acceptable jusqu'à un certain point, c'est Max Weber avec l'éthique du protestantisme et un homme avec lequel il travaillait qui était Werner Sombart. Il est bien clair que le capitalisme pouvait être encore acceptable, d'ailleurs, chez nous, on avait un grand capitalisme industriel, de l'industrie lourde, à vocation chrétienne, et qui était paternaliste, aussi bien, d'ailleurs, au début du siècle, en Allemagne, à Berlin, il y avait des Siemensstadt, il y avait des villes ouvrières.
En France aussi.
C'est ce que j'étais en train de dire.
On est Clermont-Ferrand ou Sochaux.
Voilà, ou le Creusot avec les Schneider. Ça s'écrit Schneider. Les Schneider qui avaient une vocation, on voulait pas laisser l'exploitation connaissait des limites. C'était pas les enfants qui étaient à fond de cale dans les mines, dans des conditions effroyables de l'Angleterre et de sa révolution industrielle. Donc dès lors que vous retirez la colonne vertébrale morale, le capitalisme devient quelque chose d'effroyable. Ce qui est amusant, c'est que le fils de Milton Friedman, dont j'ai oublié le prénom, lui va inventer le libertarianisme. Il est libertarien, comme Javier Milei, le nouveau président de Chili ou l'Argentine.
D'Argentine. Comme peut-être Monsieur Erlin aussi, non
Donc on tombe dans l'anarcho-capitalisme. Mais le capitalisme n'est pas... Je mets l'accent, le capitalisme c'est une des couches, le wokisme, on le voit bien, le Forum économique mondial est une des couches, mais c'est pas, il faut, moi je ne suis pas matérialiste en soi. Le capitalisme n'explique pas tout. Ce n'est pas la logique capitaliste. Ça, le capitalisme fait. L'ultralibéralisme fait partie. Le wokisme, comme
non,
je l'ai dit.
C'est-à-dire une déviance. C'est-à-dire qu'il y a le capitalisme, certes, un peu à la papa et tout ça, comme vous l'avez parlé, et puis il dévie parfois vers quelque chose.
L'argent c'est bien, mais Jack London l'avait noté, on peut pas dormir dans 20 lits en même temps, habiter 50 maisons en même temps. Ce qu'il y a derrière l'argent, c'est-à-dire la matière, il y a la volonté de puissance. Bill Gates n'est pas mu par le seul à pas du gain. Bill Gates, vous savez, c'est l'homme de qui finance l'OMS, le grand patron. Et donc il y a la volonté de puissance et il y a cette volonté messianique. On veut une démocratie universelle qui s'appelle la.
C'est-à-dire quoi la volonté mondiale. Messianique, c'est quoi ? C'est-à-dire de créer une nouvelle société.
Une société qui soit l'accomplissement, c'est ce que voulait Marx d'ailleurs. Il pensait que l'État disparaîtrait, se dissoudrait le jour où on aurait fait.
C'est-à-dire que le wokisme, c'est le petit fils du marxisme
entre autres,
d'antan.
D'antan, mais Marx, l'appareillage économique ne fonctionne pas. De Marx. Il fonctionne à la marge quand il a théorisé la plus-value ou le taux tendanciel de je ne sais quoi. Il avait en grande partie raison, si ce n'est en totalité. Mais il s'appuyait sur ce moteur de l'histoire qui était la classe ouvrière, le prolétariat, et ça marche pas. On voit bien que ça échoue. Partout, il y a eu du socialisme à travers le monde. Ça s'est mal terminé. À force de donner des coups de marteau sur des chevilles rondes pour les faire entrer dans des trous carré, on voit bien que ça c'est que ça c'est soit ça. Au Vietnam, en Indochine, il y a eu quand même le goulag. Les hommes sont pétris de bonnes intentions, mais les bonnes intentions se heurtent toujours au mur de la réalité.
Mais justement, cette réalité, bon, ça aurait pu être, on pourrait prêter à sourire si ça ne tenait qu'à 100, 200 personnes. Mais visiblement, le wokisme et donc la vision qui est derrière est en train d'envahir.
C'est pour ça qu'on
a déjà envahi l'ensemble de l'Occident.
Mais c'est pour ça qu'on peut parler de religion, parce qu'il y a une contagion mentale.
En très peu de temps, en plus.
Et au fond de chaque homme. Il y a aussi le rêve de plus d'égalité, sauf que toutes les sociétés sont et continueront à être hiérarchiques. Quand Lénine abolit toutes les hiérarchies, dit tout le monde, il commence la collectivisation commence timidement, les ouvriers continuent à aller à l'usine, puis s'ils font des soviets ou pas de soviets, ils parlent, et puis à la fin les usines ne marchent plus. Donc on va réinventer très vite, notamment avec la nouvelle économie politique de Lénine, on va réinventer le camarade ceci, on recrée des hiérarchies de salaire, de tout, on réinvente la société capitaliste après l'avoir démolie. Mais au fond de tout homme, c'est pour ça que tout homme a envie de son identité, les raciser, les décoloniser.
Le transgenrisme, il faut quand même...
Le transgenrisme,
c'est un terme...
Faites attention de ne pas tomber sous le coup de la loi, hein, parce que maintenant, ça devient sévère.
C'est vrai, c'est possible. Parce que, en fait, là où ça devient plus grave qu'on ne le pense, c'est que ça s'attaque à la sexualité de l'enfant et à ce fameux genre de l'enfant, où on demande à l'enfant se sentir d'un sexe opposé.
Je vais utiliser des concepts qui sont pas du tout scientifiques, on parle de pédosatanisme, il y a quand même une déstructuration, une déconstruction. Je pense, en tant que sociologue et anthropologue, que l'hyperclasse que décrit très bien M. Attali, d'ailleurs M. Attali, au fond, prône lui-même la déviance sexuelle. Il disait, grâce au monde virtuel, au monde 3D, on pourra satisfaire tous ces fantasmes. Et il parlait de nomadonanisme. Enfin, c'est pas un enfant de cœur, Monsieur Attali. Je rappelle qu'il a conseillé 5 présidents successifs en France. Eh bien, cette hypersexualisation, ce pansexualisme, tel que l'avait décrit aussi bien Freud. Alors, puisque j'évoque Freud, à un moment donné, ce marxisme qu'on appelle aujourd'hui culturel, on l'a appelé aussi du freudo-marxisme. Freudo-marxisme, marxisme culturel, à propos du wokisme. Comprenons bien que l'aspect, la dimension, le noyau économique de Marx n'est pas en question. Il est en question, sauf qu'il pensait que le moteur allait nous conduire dans conduire l'histoire des sociétés dans un certain sens. Mais ce qu'il y a, c'est la relation au fond fondamentale, l'essence même, la relation dominé-dominant, oppresseur-oppressé. Donc il faut être du côté des oppressés. Moi, je suis pas pour oppresser les opprimer les gens. Mais
comment on peut expliquer que justement ce wokisme s'attaque à la sexualité de l'enfant? Est-ce que c'est une façon aussi de pouvoir contrôler
Freud,
des adultes?
Freud, bien sûr, puis de tous les construits, puis de consommer aussi. Freud parlait de l'enfance, c'est pas les textes que l'on met en avant, mais ils sont faciles à retrouver, de l'enfant comme un pervers polymorphe. C'est déjà tout un programme. Dans les années 30, vous avez eu McKinsey qui reste toujours une référence mondiale, un sommet qui a écrit 20-30 volumes. Tout le monde sait aujourd'hui que c'était un pédomaniaque qui a fait violer les enfants pour prouver que les nouveau-nés quasiment ou les enfants en bas âge connaissaient des orgasmes. C'est un fou, mais ça a été la base de la politique éducative en matière sexuelle aux États-Unis. Donc vous voyez, le mal va de loin, il est théorisé. Théorisé, il y a des théoriciens de haut niveau, et puis surtout, je prendrai pas d'exemple dans l'anthropologie, mais dans l'ethnographie, mais par exemple les libres enfants, non, c'était le... On parlait de la sexualité dans les îles, c'était pas Samoa ou que sais-je. Tout a été inventé. On disait, mais les jeunes filles n'ont pas besoin d'être vierges, elles peuvent avoir toutes les relations sexuelles, et tout le monde est épanoui, tout le monde il est beau, tout le monde il est content. Bon, je veux bien. Puis on peut prendre aussi, certains prendront même comme modèle de néo-anthropologie, les chimpanzés nains, les fameux bonobos, qui règlent tous leurs problèmes de tension sociale, qui règlent tout à travers la sexualité. Bon, on peut... donc oui... Ce pansexualisme fait partie, au fond, un des éléments aussi de la libération profonde que l'on espère, qu'on veut instaurer chez l'homme. Lénine, quand il arrive au pouvoir, fait tout de suite instaurer l'avortement. Alors ça crée une déstructuration sociale fantastique, parce que les hommes étant l'égal des hommes, on va retrouver les femmes dans la rue en train de paver les rues. Hein. C'est ce qui est normal, puisqu'on les... Je vois froncer les sourcils un peu à mon propos, mais vous aurez le droit de me démolir.
Les coups de sagement.
Oui.
De me démolir. Staline, très sage, qui prépare la guerre dès les années 30, avec son Gosplan, prépare la guerre contre l'Allemagne. Ce que je vous dis, c'est pas sorti de nulle part. Hein. J'ai lu les textes, les témoignages, les analyses de l'époque. Donc lui, il va arrêter tout de suite l'avortement, parce que il a bien compris que la dénatalité dont nous vivons, que nous vivons aujourd'hui, pas seulement en France, mais à l'échelle de toute l'Europe, fait un appel d'air. Dès les années 2000, quand même, certaines commissions spécialisées, on trouve facilement les textes des Nations Unies, disaient, comme il y a un hiver démographique qui s'annonce en nombre, dès l'année 2000, il va falloir faire entrer 3, 4, 5 millions de migrants et de migrants du tiers-monde. On voit bien qu'il y a une volonté, si on veut instaurer cette gouvernance mondiale, une volonté de déconstruction des sociétés, de démolition des sociétés, de dissolution des peuples. Je vais utiliser un vilain mot qui peut choquer.
La déconstruction identitaire.
La matrice ethnique, ethno-culturelle, ethno-historique, ethno-confessionnelle. Si vous mélangez les hommes.
C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que ça permet de maintenir un pouvoir parce que les hommes sont divisés.
Il y a quand même cette immense illusion, cette erreur profonde, intellectuelle et conceptuelle, de penser que parce que les peuples seront métissés, qu'ils seront mélangés. D'abord, ils ne se mélangent pas. Contrairement à ce que l'on pense, ils ne se mélangent pas aussi bien que ça. On ne mélange pas l'huile et l'eau, ce qui ne veut pas dire que l'huile soit inférieure à l'eau et vice-versa. Non, il y a l'eau et l'huile. Alors, à la marge, on s'assimile, ou il y a des gens extrêmement intégrés, mais qui sont pas assimilés, même s'ils sont très bien intégrés. Eh bien, ça se retourne contre eux. On voit la question, par exemple, sensible de l'antisémitisme en France. On veut pas le dire, mais ce sont les populations de nouvellement arrivées, leurs enfants, pourtant nés en France. Alors, je ne dirais pas que c'est l'islam en tant que religion, c'est l'islam aussi en tant qu'expression culturelle, identitaire, de communauté. Hein, il faut voir les choses comme ça. Je ne ferai pas un distinguo grossier, islam, islamisme, qui existe. J'ai écrit un livre sur la question qui s'appelle « Les égarés ». Mais on voit bien, on crée des golems. Vous savez, ces golems, c'est cette espèce de monstre qui, à Prague, portait des inscriptions kabbalistiques, mais à un moment donné, on a oublié la bonne inscription et le golem se met à tout casser. Le monde moderne crée des golems. On a créé Ben Laden, et puis maintenant on crée l'immigration qu'on ne peut pas contrôler, qui devient incontrôlable, de l'aveu même d'ailleurs des immigrés.
Déjà, on voit à Mayotte, par exemple, qui est département français, et
Les Mahorais musulmans sont contre les Comoriens qui sont importés. Il y a déjà 40-50 ans, j'entendais des gens me disant, mais j'ai occupé comme fonction le poste de relations de presse à l'IAP. L'IAP, ça s'appelle l'ENA, mais pour aujourd'hui, les MENA pour l'Afrique, par exemple, ou l'Asie. Et j'avais des étudiants qui étaient déjà des cadres, de hauts cadres administratifs, de hauts fonctionnaires africains, qui me disaient, mais enfin, vous allez couler, qu'est-ce que vous faites à accueillir tout ce monde-là? C'est eux qui me le disaient. Hein, on ne pouvait pas les taxer de racisme. Ils me disaient, mais enfin, nos parents, ils me disaient ça, hein, nos parents, c'est vous, occupez-vous de nous, et de vous, et de nous. Mais là, vous ne pouvez pas, la France va chavirer. Ben, là, elle commence vraiment à chavirer, même à couler, à fond.
Donc ce seraient les conséquences, par exemple, du wokisme, c'est que ça va finir par couler, ou peut-être ça va amener vers une forme de guerre civile, chacun se sentant d'une identité propre.
La guerre civile peut prendre une quantité de formes. Peut-être qu'à très bas bruit, il y a déjà des confrontations. C'était le maire de Lyon, aujourd'hui décédé, ministre de l'Intérieur, qui disait « Aujourd'hui, nous sommes côte à côte, c'est-à-dire que nous ne sommes pas ensemble, nous sommes côte à côte, et demain, nous risquons d'être
face à face. »
Parole historique. Je reviens à ce que vous avez dit en introduction, mais de façon lumineuse. Le wokisme est la religion du nouvel ordre mondial. C'est en cela, et c'est pour ça qu'il est si bien promu. Et il faut, quand on dit qu'il faut déconstruire, déstructurer, déconstruire, hein, en fait, ça se commence dès le bas âge, puisqu'on va s'appuyer sur les jeunes, sur la jeunesse. Un gamin qui aura eu des relations sexuelles, puisque ça c'est l'OMS de Monsieur Bill Gates, hein. On apprend les pratiques onanistiques, on dirait Monsieur Attali, on les commence dès l'âge de 3 ans ou de 4 ans, on commence à initier petit à petit. Je voyais qu'en Suède on donnait des objets sous forme de peluches sexuelles, sexe de dame, sexe pénis d'homme, etc. On va nous rendre fous. Monsieur qui est là en face de moi le dira, l'enfance se construit par étapes. Il y a ce qu'on appelle une génétique de psychologique, une maturation qui doit se construire. On ne met pas la charrue avant les bœufs. On ne va pas créer des pubertés, des prépubertés à l'âge de 3 ou 4 ans. C'est de la folie absolue. Mais avec des gens qui auront été rendus malléables. On veut des sociétés fluides, n'oubliez pas, des fluides, gender fluides, par exemple. Et bien, petit à petit, on aura des hommes qui seront, des hommes et des femmes, qui seront ouverts à toutes les manipulations, qui jouiront, puisqu'on leur a dit « jouissez, jouissez sans entrave », ça c'est le slogan situationniste de 1967, « jouissez sans entrave et sans temps mort ». Eh bien, c'est, nous allons entrer, pas seulement dans un monde orwellien, mais dans le monde d'Aldous Huxley, le meilleur des mondes, où là aussi la sexualité et la drogue peut prendre une quantité dans le roman d'Aldous Huxley. Je sais pas, c'est un récit dystopique comme on dit aujourd'hui. S'appelle le Soma, mais il y a des séances de sexualité collective aussi qui sont obligées sous l'emprise du Soma pour sociabiliser et unifier la société qui, au demeurant, est extrêmement chez Huxley, extrêmement hiérarchisé. Et puis il y a les résistants, les dissidents, on les a remisés, ils sont pas méchants, on les a remisés sur une île, là-bas, loin, loin, loin des yeux et surtout loin du cœur, si encore tant est qu'on ait un cœur. Nous, on a des drogues, il faut le dire, il y a des drogues, mais c'est comme la langue d'Ésope, hein, ça peut être le meilleur ou la pire des choses, on a Netflix, on a Disney, donc on a Hollywood, qui sont quand même d'extraordinaires instruments de d'esservelage, je m'arrête ici, et qui surtout véhicule le message wokiste, qui est un message de liberté, d'épanouissement. Soyez vous-même comme chez McDo, venez comme vous êtes.
Clairement. Merci à vous, cher Jean-Michel Vernochet. On va passer au grand débat avec nos intervenants, mais avant ça, les petites annonces.
Vous, les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça.
Effectivement, pour nous, la liberté d'expression, c'est important. Et on sait que pour vous aussi. Alors faites un don à GPTV.
Je vis de quoi ? Des droits d'auteur de mon livre. C'est tout.
Moi, je pense pas.
Rendez-vous sous la vidéo pour soutenir l'information libre.
Tu vas payer pour ton insolence.
Merci à vous d'être si nombreux, déjà 3500 personnes en même temps avec notre compte X. N'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. C'est les 1 an de la lettre de Géopolitique Profonde. Et pour ces 1 an, vous aurez un article de notre ami le général de Lavarde. Aussi le Tipeee Stream, n'oubliez pas le Tipeee Stream, cette émission, c'est la vôtre, on l'a fait pour vous, donc n'hésitez pas à nous soutenir, voyez, c'est entouré, vous cliquez là où c'est entouré, et vous nous soutenez. Chère Stéphanie, t'as entendu cet entretien, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que de cet entretien, comment t'as envie de réagir là?
Je connaissais pas l'origine vraiment historique marxiste à ce point-là, enfin aussi lointaine du wokisme. J'avais cru comprendre qu'il a ce mouvement idéologique et donc devenu religion, hein, pour aller au-delà de l'idéologie, avait pris racine dans les campus nord-américains dans les années 2010, si je ne m'abuse, et donc a été importé des États-Unis peu à peu.
L'école de Francfort.
C'est ça.
L'école de Francfort, mais
donc c'est bien avant que 2010.
C'est bien avant
les années 30.
D'accord, il y a eu un coup d'accélérateur dans les années 2010.
Après la révolution culturelle maoïste et après le mai 68 en France et dans toute l'Europe d'ailleurs.
D'accord.
Est-ce que c'est, alors je vais te redonner la parole, mais est-ce que c'est le wokisme, c'est le petit-petit-petit-fils de l'idéologie des Lumières, des philosophes des Lumières ? Des Voltaire, Rousseau, etc. Est-ce que déjà eux-mêmes ont commencé à semer ce wokisme du XXIe siècle ?
Il faudrait l'analyser précisément, mais d'une certaine façon. C'est-à-dire que les racines, vous savez, nous vivons la vie des idées. Et les idées ont une logique, elles tracent, et on peut dire que c'est aussi, ça vient de la haute antiquité. Déjà, on était wokiste à sa façon, dans la République de Platon. Mais tout cela étant des idées qui sont devenues folles. Comme on a dit que le communisme était un christianisme dévoyé, des idées devenues folles. Mais les idées ont des vies logiques et continuent à tracer. Et là,
Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, je coupe les femmes, je suis misogyne, c'est comme ça. Vas-y.
Tous. Pour moi, le wokisme, il marche main dans la main avec le transhumanisme. Ce sont les deux jambes du même monstre.
Oui, oui.
Et en tant que parent d'élève, je voulais quand même apporter une lueur d'espoir et à monsieur en face de moi, monsieur Robert, qui le sait déjà certainement, c'est que, à titre personnel, quand on est sorti de la torpeur du covidisme, j'allais dire du communisme, le lapsus, du covidisme, j'ai compris l'année dernière qu'il y a des parents qui n'avaient pas du tout douté de quoi que ce soit, de ce récit qui a été servi depuis 2020, mais qui, sur le wokisme, ont commencé à tiquer, puisqu'il y a une maîtresse qui n'était pas celle de mon enfant, qui a commencé à expliquer à des enfants de 5 ans que... alors, moi, je suis pour la tolérance, c'est une noble cause, évidemment, mais qui est dévoyée et qui est instrumentalisée dans cette histoire-là. Et donc, il était expliqué à des enfants de 5 ans qu'un homme pouvait être en couple et tomber amoureux d'un autre homme, une femme d'une autre femme, très bien, soit, je trouve que c'est vrai, il n'y a aucun souci, mais qu'en plus, à des enfants de 5 ans, la maîtresse est allée encore plus loin, elle les a expliqué que, mais en plus, si on n'était pas à l'aise avec son sexe, on pouvait aussi en changer via des opérations.
La maîtresse a dit ça ?
Oui, et il y a des petites filles qui sont rentrées qui ont parlé de ça à leurs parents, des mamans d'élèves qui m'ont parlé de ça, et certaines...
C'est quoi, c'est l'école publique ?
C'est l'école publique, une assez bonne école publique parisienne. Et j'avoue que je me suis dit, j'ai eu une lueur d'espoir en me disant, mais ces parents qui n'avaient pas tiqué sur le covidisme ont commencé à tiquer sur ce wokisme qui rentre quand même dans nos écoles publiques, avant même le CP. Et là, j'ai eu une lueur d'espoir en me disant, c'est peut-être le pas de trop qui va faire basculer...
Mais justement, comment on réagit les parents lorsqu'ils ont entendu cette maîtresse leur dire qu'on pouvait...
La maman qui, elle, avait pourtant adhéré au récit précédent, a dit non, là, ça... Ça, non, je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Parce que
il y a quand même une réaction.
Il y a un problème, oui, exactement. Oui. Il y a une réaction.
La goutte qui fait déborder le
vent. Voilà, exactement. Donc, je trouve que c'est un peu d'espoir.
Oui.
N'est-ce pas, monsieur Robert ?
Je ne suis pas sûr que le vase déborde suffisamment. Enfin,
Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Lorsque vous voyez des parents venir à votre cabinet, ils vous parlent de ça, de ce changement de sexe ?
Alors, non, on ne parle pas de ça. Par contre, il y a des patients qui peuvent, et des patients les plus vulnérables. Vous savez, il y a un phénomène, je ne sais plus quel auteur en a parlé, de contagion sociale. D'ailleurs, elle en a parlé, la dernière invitée de SOS Éducation, à savoir qu'on a plus de 70% des filles qui sont concernées par... Enfin, qui souhaitent, dans les personnes qui changent de sexe ou qui souhaitent faire une transition, sont des filles. Et il y a un phénomène comme ça qu'elles expliquent de mode ou de contagion sociale qui fait que les filles sont davantage fragiles ou sensibilisées au fait de vouloir... changer de sexe et en fait se rendre compte après en détransitionnant que c'était pas tout à fait mais ça c'est hyper intéressant. Donc moi oui, effectivement il peut m'arriver d'avoir ce type de patient là et on se rend compte souvent que il y a des troubles derrière et comme je l'avais dit qu'il y a surtout un mal-être psychologique et ça c'est vrai qu'on n'a plus le droit de dire ça aujourd'hui quand on veut mettre en avant et qu'on veut dire qu'une personne qui se pose des questions doit d'abord aussi être examinée d'un point de vue psychologique pour connaître ces raisons là et bien comme je vous l'ai dit on ne peut plus le remettre en question sinon sans être taxé de transphobe et de toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, on est censé ne plus interroger un patient et dire pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, c'est censé être une norme, c'est censé être normal, on est censé ne plus être dans quelque chose d'anormal. Et je pense que justement, comme monsieur l'a dit, c'est qu'on est dans une déconstruction, mais une déconstruction de quoi ? Je crois que vraiment, la haine des wokistes, c'est la haine des normes, la haine de tout ce qui est conservateur, en fait. C'est-à-dire les valeurs de la famille, vous parliez justement de la dénatalité, toutes ces choses-là, ces valeurs-là, on va peut parler de Blanche-Neige, et vous parler des contes de Disney, tout ça, qui sont revus, comme vous le savez, Walt Disney a revu toute sa filmographie, tous ses dessins animés à la sauce woke, et puis vous avez vu que ça a fait flop, ça ne marche plus, donc là on commence déjà effectivement en revenir, mais effectivement, vous le savez, Blanche-Neige, par exemple, se faire embrasser par le prince, c'est pas bon parce que c'est un homme qui vient sauver...
Il
lui a pas demandé son autorisation. Bientôt, Blanche-Neige...
La notion de consentement.
Bientôt peut-être que... pourquoi vous parliez des enfants ? Mais tout ça, c'est des contes pour les enfants, Blanche-Neige. On peut parler des sept nains.
Il n'y a pas d'enfance.
Oui.
N'oublie pas, Freud l'a bien dit.
Oui.
L'enfant est un pervers polymorphe.
Oui. Alors,
il a dit ça pour Freud.
Non, il l'a dit.
Un pervers
polymorphe. Mais oui, vous tapez pervers polymorphe. Alors, on est revenu.
Il parlait de.
Ça veut dire qu'il.
Ça prend plusieurs formes, la sexualité, mais bon, il y avait une curiosité de l'enfant, c'est ce qu'il a voulu mettre en avant. Bon, j'entends ce que vous dites. Mais je voulais juste terminer sur Blanche-Neige. C'est important parce que ce sont des contes pour enfants. Les sept nains devaient être qualifiés de sept fantastiques, je ne sais pas, vous avez entendu tout ça. Il y a la guerre, il y a la novlangue, la guerre des mots avec les wokistes. Et c'est très important pour eux de ne plus employer certains mots, de vouloir faire de revisiter l'histoire, comme vous le savez. Et par exemple, notamment, les contes aussi, les histoires d'Agatha Christie doivent être revues. Donc, on a revu toute la littérature d'Agatha Christie pour retirer certains mots, comme le mot nègre, justement.
Oui, les dix petits nègres.
Voilà. Donc, et il y a comme une sorte d'angélisme, c'est-à-dire qu'on croit qu'en modifiant le vocabulaire, on va faire un monde meilleur. Ça, c'est la première bêtise, parce que c'est pas parce qu'on enlève le mot nègre du dictionnaire qu'il y aura pas de raciste envers les personnes de couleur. Enfin, c'est stupide.
C'est un mot latin.
Oui, c'est une stupidité. Et il a du sens historiquement. Il a du sens.
Oui. Chez nous, il y avait l'art nègre. Il y avait l'art vu nègre.
Bien sûr. Et donc moi, mais ce qui est marrant, c'est que moi qui suis une personne noire, donc de couleur, sachez que les noirs entre eux peuvent s'appeler en créole, parce que je suis antillais, peuvent s'appeler nègres entre eux.
Bah oui.
Ils ont droit, eux, entre eux. Mais voyez, un blanc qui utiliserait ce mot, encore une fois, pas à dessein, on peut utiliser ce mot pour dire, par exemple, un nègre littéraire. Vous savez qu'il y a une pétition qui a été écrite il y a longtemps pour dire qu'on doit dire un prête-plume, on ne peut plus dire un nègre littéraire. Enfin, donc c'est la guerre des mots, pour en dire énormément, hein, sur tous les mots. Et donc moi j'avais noté, alors, pour revenir sur l'histoire...
Allez-y, vous avez noté.
Oui, j'ai noté pas mal de choses sur l'histoire, parce que c'est vrai que les États-Unis... semble avoir une part importante. Alors j'entends ce que disait monsieur, mais moi j'avais noté qu'un siècle avant justement l'abolition de l'esclavage, en 1865, donc dans les années 60-64 aux États-Unis, il y avait justement l'action pour les droits civiques aux États-Unis qui a été un énorme mouvement pour interdire toute forme de ségrégation. Et ça c'est quelque chose, je sais pas si bon, historiquement vous avez bien en tête cette rébellion des personnes noires africaines qui parlaient d'une ségrégation. Et donc ça a été très très fort dans le mouvement woke, parce que je pense que ça a été au début dans le sort d'inégalité, de racisme, et c'est beaucoup partir sur la question de l'inégalité et du racisme, et c'est comme si les États-Unis avec un complexe, un énorme complexe, et d'ailleurs quand je regarde les séries américaines aujourd'hui, j'ai toujours été frappé par ça, c'est de voir qu'ils ont comme une forme de complexe et essaient toujours de mettre les personnes, mais nous on voit le wokisme en France que depuis quelques années, mais aux États-Unis depuis des années dans les séries, vous avez des séries wokisées si je puis dire, avec des personnes de couleur qui vont justement être en position de chef. Vous avez, par exemple, si vous voyez un film avec une série policière, qui sera le chef de police et qui gérera tout le monde ? Ça sera un homme noir.
Ça existe déjà dans Starsky Hutch. Hein.
Voilà. Mais c'est extra. Et nous, on voit ça aujourd'hui en France, en Europe, là et tout ça. Mais c'est depuis des années aux États-Unis, parce que je crois qu'ils vivent sur ce complexe-là d'avoir effectivement eu cette ségrégation et d'avoir eu l'esclavage. Alors, et tout ça. Bon, il y a ça, oui.
Je voulais juste dire ce point. La lutte des classes,
oui,
ne fonctionnant pas. On porte ça sur la lutte des races.
Exactement.
Et d'ailleurs, Marx s'est inspiré d'Augustin, oui, Thierry, un historien français, qui pensait que la Révolution française était née d'une lutte des races entre les Gallos, et les tribus germaniques qui étaient arrivées et qui avaient constitué le noyau dur de noblesse. Donc Marx s'est au départ appuyé sur la dialectique de la lutte des races.
D'accord. Et il faut quand même comprendre que la lutte des races... Les personnes, d'ailleurs, c'est important ce mot race finalement, hein, ce mot race où on entend les racisés. C'est-à-dire que là, moi, à table, là, je suis une personne considérée comme racisée, vous le savez, ça, c'est le nouveau mot. Vous voyez, ça, c'est ce...
Bon. Est-ce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas parler de race ?
Je connais la race humaine, voilà, moi. Mais ce sont les personnes qui sont dans les manifestations woke qui utilisent ce mot racisé comme si nous étions de différentes races. Parce que les racisés, ce sont bien sûr les Maghrébins, les personnes de Nord-Afrique et tout ça. Bon, bref. Juste...
Concluez, cher.
Je dois conclure. Oh, j'ai tellement de choses. Alors, je dirai un peu plus tard.
On a deux heures.
Bon. C'est pas fini, là. On s'arrête pas, là.
Allez, j'accélère. On va dire, aux États-Unis, toujours 2013, on a quand même l'affaire. C'est important. J'avais noté le mouvement Live Black Matter, hein, très important. Live Black Matter qui a été très, très fort. On est en 2013. En 2020, on a l'affaire George Floyd. Vous connaissez l'affaire. Tout ça, ça crée des émeutes systématiquement et on ressort le complexe du blanc qui est privilégié et comme ça. Et je voulais dire un petit mot là-dessus, vite fait, vous avez parlé de capitalisme. Moi, je fais vraiment un lien. Alors, vous avez parlé effectivement de transhumanisme, je suis d'accord, mais je fais un lien, mais fondamental entre entre tout simplement l'économie, monsieur va parler d'économie tout à l'heure, et le wokisme. Pour moi, le wokisme ne pourrait survivre et exister s'il n'y avait pas l'avarice de l'homme, l'homme avec un grand H, c'est-à-dire le désir, l'appât du gain et du pouvoir. Je peux développer, mais je développerai plus tard, mais je pense qu'il y a vraiment un lien très très fort, c'est que systématiquement, je vous montrerai hein, le lien pourquoi d'accord. J'en arrive là, mais systématiquement, les universités, les endroits, les marques, les maisons d'édition, toutes les personnes qui ont la possibilité de produire des œuvres artistiques et tout en France reculent par rapport à la question de l'économie, par rapport au chantage de ces personnes qu'on appelle groupes de pression lobby qui disent si vous ne nous représentez pas, nous, qui sommes la tyrannie des minorités, comme vous le savez, hein, LGBT et tout machin, si vous ne nous représentez pas dans votre production, eh bien, on va vous faire une vie d'enfer et vous perdrez de l'argent.
Qu'est-ce que vous en pensez, ça, de cette dernière partie de votre
De toute façon, le Disney est en train de couler. Je ne sais plus quelle marque de bière. Disney a perdu des milliards à faire de l'ultra-wokisme. Voilà. Vous avez raison, monsieur. Il y a un film qui doit remonter à il y a une quarantaine d'années, Octobre Rouge, le capitaine d'un sous-marin nucléaire. Et c'est Denzel Washington et qui fait la leçon et le blanc et se recroqueville, vous avez raison, il bat sa coule. Bon, c'est détestable. On le voit d'ailleurs dans la publicité à l'heure actuelle.
Pas que la pub.
Les femmes blanches sont là devant leur amant noir, leur mari noir.
Alors,
leur
effectivement, il n'y a plus.
Je sens dit.
Je peux dire un dernier mot.
Je suis hors concours.
Non, mais il n'y a plus. Vous avez dit, alors je ne peux pas citer de marque, mais il y a une pub assez célèbre sur la sécurité où on voit un voleur, enfin la sécurité,
oui,
c'est
oui,
des
oui,
marques.
Oui, voilà.
Je ne dis pas la marque.
Sur la chanson de Bella Ciao.
Bella Ciao.
Important, le voleur, c'est plutôt quelqu'un qui a votre profil, ce qui n'est pas la réalité.
C'est Xavier Hoffer.
Je pense que vous êtes un peu plus vieux que moi. Donc voilà, bon, en deux mots.
Hélas.
En deux mots, vous êtes le mâle blanc, voilà. Hein, et donc, c'est moins risqué de faire de vous un voleur, ce qui n'est pas la réalité, parce que dans les cambriolages, donc on a dans la publicité un maghrébin, on a toutes sortes de personnes, et forcément, qui est jeune et tout, c'est vous le voleur, enfin vous, le personnage qui vous ressemble, parce que ça serait trop touchy, effectivement, de mettre une personne jeune, etc. Et donc, voyez la fiction, à quel point ce n'est pas la réalité, et dans toutes les publicités.
Le bourreau est l'éternel bourreau.
Vous avez
et
vu
la victime,
toutes les publicités, victime. Vous avez envie de vendre, qu'est-ce que soit ce que vous avez intérêt de mettre du métissage. Vous ne pouvez plus faire une publicité sans métissage.
Merci à vous, cher Jean-Luc. Je sais que vous êtes aujourd'hui, vous êtes chaud là. Oh, mais on va vous laisser parler un peu, Philippe. On l'entend pas. J'entends sa voix.
Non, mais il est très sage.
La cravate d'or.
J'approuve tout à fait le fait que vous remontiez à la Révolution russe, parce que c'est là que le gauchisme s'installe et prend le pouvoir dans un pays, ce qui lui donne une puissance énorme. Et je viens de terminer la lecture du livre d'Anthony Beevor sur Russie, révolution et guerre civile, 1917-1921, qui montre justement comment les bolcheviks prennent le pouvoir et comment ils font la guerre civile, parce que Lénine, dès le début, savait que ça allait se dégénérer en guerre civile, et donc il avait un coup d'avance, et il n'a pas hésité, enfin c'était conscient chez lui, de vouloir absolument détruire l'ordre ancien, quoi. Et un de ses mots d'ordre, d'ailleurs, c'était « voler ce qui a été volé ». Et comme toute la société tsariste, c'était injuste, ça veut dire qu'on pouvait tout voler, en fait. Quoi. Voilà, donc c'était une sorte d'anarchie complète, et ça s'est traduit par une guerre civile.
C'est-à-dire que le wokisme, c'est un retour de l'histoire, passé, quoi.
Alors, c'est là que le gauchisme prend pouvoir et s'installe. Ensuite, avec Staline, il va y avoir, comme vous l'avez noté, comme vous l'avez dit, un certain retour à l'ordre. Et puis bon, ensuite l'Union soviétique va continuer et va s'effondrer en 1990. Mais il y a aussi des branches du gauchisme qui ont vécu à côté. Alors voilà, vous avez parlé de Trotsky, vous avez parlé de l'école de Francfort. On pourrait aussi parler de Heidegger qui a inventé le concept de déconstruction qui va être repris par Derrida. Et puis Derrida va aller aux États-Unis. Donc ça va comme ça, de façon un peu marginale, ça va se développer aux États-Unis. Et à partir de l'effondrement de l'Union soviétique en 1990. Eh bien, le virus gauchiste va muter en quelque sorte, comme un virus.
Virus.
Voilà, exactement comme un virus.
Je parlais de maladie, j'appelle ça des idéovirus.
Voilà, eh bien, c'est exactement, voilà. C'est un terme qui convient tout à fait, parce que le communisme soviétique, qui était figé avec Brejnev et tout ça, qui pouvait plus créer et représenter une force d'attraction dans le monde, eh bien, il s'est effondré tout seul. Mais ça ne veut pas dire que le gauchisme est mort, justement. C'est qu'il s'est complètement transformé. Et là, on le voit arriver, on le voit revenir en Europe avec le wokisme. Alors maintenant, ce qu'on pourrait dire qui est peut-être un signe d'espoir, c'est que le wokisme va tellement loin. Enfin, on a du mal à imaginer ce qui pourrait succéder au wokisme. Maintenant, il faut toujours se méfier de l'intelligence maléfique de la gauche, hein. Mais disons que là, étant donné qu'on remet en cause l'identité sexuelle, qui est quand même quelque chose d'essentiel et de biologique et de fondamental dans l'être humain, et on remet en cause l'identité, on remet en cause... le wokisme arrive peut-être... Enfin, le gauchisme arrive peut-être en bout de course et en phase d'autodestruction. Vous avez dit tout à l'heure que Disney était en train de couler parce que tous les films ou dessins animés qui le refaisaient ne rencontraient pas du tout le public. Tout à l'heure, vous avez parlé...
Oui, parce qu'ils sont allés un peu trop loin aussi.
Oui, oui, mais enfin, ils vont tous trop loin. Mais Netflix aussi, hein. Netflix, ils ont fait des séries
Netflix également.
Qui ont foiré et ils ont
ils
fait
un peu... Ils perdent de l'argent. Et la marque de bière qui avait pris...
Voilà, la marque de bière qui avait pris... Voilà. Budweiser qui avait
mais ce n'est pas un pas de côté qu'ils vont faire plus tôt
Non, mais même si c'est un pas de côté, ça veut quand même dire qu'ils reconnaissent que là, ces idées gauchistes-là sont en train d'arriver...
Toi, c'est que du gauchisme, en fait.
Mais il a...
Non, mais historiquement...
Toi, t'es dans le droite-gauche, c'est ça.
Mais il a raison, c'est pas droite-gauche, mais il a raison. C'est du gauchisme.
Ce sont des idées progressistes.
J'ai essayé d'établir la continuité avec le marxisme. Alors, il y en a qui pensent que c'est que le wokisme est un phénomène spontané, récent.
Oui, mais si c'est une branche du capitalisme, le capitalisme...
Non, pas du capitalisme. Le gauchisme, voilà. Moi, je suis pas d'accord quand on.
T'es pas d'accord avec ça.
Je suis pas d'accord quand on implique le capitalisme là-dedans, même si ça peut.
Non, c'est pas.
Quand je parle de capitalisme, il est pas content.
Même si ça peut.
Mais il a raison.
Même si ça peut concourir, parce que le capitalisme défend une forme de liberté qui peut aussi être utilisée par les gauchistes pour dire, demandant plein de liberté, voilà. Mais enfin, le capitalisme est quand même né dans des sociétés où il y avait des valeurs morales, où l'enrichissement était quand même valorisé.
Mais
au nom d'idéaux
l'éthique protestante de Max Weber.
Oui, mais est-ce que le capitalisme, par le wokisme, ne crée pas des marchés nouveaux?
Il crée
des marchés nouveaux, bien sûr.
C'est une déviance du capitalisme.
Alors pour moi, c'est pas le capitalisme qui est à l'origine, c'est le gauchisme. Par exemple, si on prend le cas des mères porteuses, il y a des gens qui achètent des mères porteuses.
Après Jean-Luc Robert et Stéphanie.
Des gens qui achètent des bébés sur des mères porteuses qui sont en Ukraine ou ailleurs, bon, on pourra dire c'est le capitalisme. Non. Pour en être arrivé là, il a fallu briser des barrières morales justement par rapport à la sexuation, par rapport au couple, par rapport à l'enfant, qui n'ont pu être brisées que par des gauchistes. Alors ensuite, que ça devienne un marché capitaliste en tant que tel, d'accord, mais pour moi, ce n'est pas le capitalisme qui a forcé ça. Ce n'est pas des forces capitalistes, ce n'est pas des groupes capitalistes qui ont demandé ça, c'est d'abord la destruction de valeurs morales qui ont permis ce marché-là.
Je ne suis pas totalement sûr,
mais je ne pense pas que ce soit le capitalisme. Qui ait créé le wokisme, là je suis d'accord avec vous, mais je pense que le wokisme prospère grâce au capitalisme. Pour moi, je n'ai aucun doute sur cela. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit précédemment, s'il n'y avait pas l'avarice de l'homme, le désir de faire du gain, le désir de toujours avancer dans les affaires, dans l'économie, eh bien les personnes wokistes ne pourraient pas mettre la pression. Qu'est-ce que c'est que le lobby? Ce sont des groupes de pression. On fait pression par rapport à quoi? Systématiquement, au bout du bout, vous allez retrouver le capitalisme. Mais ce n'est pas le capitalisme qui est responsable, mais c'est parce qu'ils les tiennent par la barbichette, si je puis dire. Et donc ça, c'est problématique pour moi, c'est qu'il n'y a aucun patron, aucune enseigne qui est suffisamment forte pour dire moi, je vais au-delà, ma marque à moi, il y a des valeurs que je défends. Vous avez vu, je peux citer plein de marques. Attendez, L'Oréal, Banania, on peut citer Nike, Adidas, toutes ces marques-là sont c'est de la plaventrisme, sont couchées devant le wokisme qui leur met la pression, les groupes de pression. Il n'y en a aucune qui est capable de dire.
Je veux entendre Stéphanie.
Le fait qu'il y a des groupes de pression qui jouent sur l'argent, je suis d'accord. Mais pour moi, la finalité de ça, c'est pas l'argent. Je veux dire, quand Lénine a fait la révolution, c'était pas pour l'argent.
La finalité
c'était pour des idées beaucoup plus haute que l'argent pour lui, c'est-à-dire la destruction d'un ordre ancien et la mise en place d'une nouvelle société communiste. Donc c'est pas pour l'argent.
Également la volonté, la volonté de puissance.
Moi j'ai pas dit c'est pour l'argent,
c'est
monsieur.
La volonté de puissance.
Jean-Luc Robert dit qu'au final, à la fin du fin, la conséquence c'est l'argent.
Ah ben bah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est vraiment une idée. C'est des idéaux, c'est des idées. C'est des idées et l'argent.
Alors, les idées qui dirigent le monde.
C'est des idées
non, mais je suis d'accord avec vous.
Il y a une dame parmi nous.
Je suis d'accord avec vous,
il faut lui laisser la parole. Allez, soyons galants.
Je suis d'accord.
Difficile de trancher. Non, je me pose la même question que vous. Est-ce que c'est cette. Je me demande si c'est pas cette hyperclasse qui a donc des projets, mais qui vont bien au-delà des questions de cupidité, effectivement, qui ont infiltré, donc, comme on le sait, plus ou moins, on va pas se le cacher, les classes politiques et qui instrumentalisent. Il y a une volonté politique, mais qui est instrumentalisée par une hyperclasse, qui est bien au-delà, enfin, c'est supranational, qui est au-delà des décideurs politiques. Par exemple, quand on sait que les ministères financent grassement, je sais pas, des organismes comme le Mouvement français pour le planning familial, qui est à fond pour le transsexualisme, ou la DILCRA, qui sont des trans radicaux, extrémistes, et qui sont pour les changements de sexe, même chez les mineurs. Je me dis que là, il y a un mouvement qui est impulsé, mais ça vient de plus haut que de la sphère politique. Et donc, il y a un projet, mais qui est transhumaniste, puisqu'ils veulent établir une nouvelle Bible, la Bible du transhumanisme, qui va supplanter nos pauvres textes sacrés, quels que soient les monothéismes. Et là, je pense qu'on est vraiment dans une guerre spirituelle. On est au-delà encore du matériel. Parce que l'argent, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Quand on est multimilliardaire, comme Bill Gates, on se lève le matin, on n'a plus envie de gagner sa vie, il y a un désir qui va au-delà de ça.
Alors,
Jean-Michel Vernochet, allez-y.
Oui, j'ai perdu le fil de mon propos. Non, mais c'est pas grave. Bien sûr, Lénine, et de toute façon, et le marxisme, voulaient créer un homme nouveau. C'est ça, c'est le transhumanisme, créer un homme nouveau dans une société nouvelle. Alors, comme je l'ai dit, je pense que le wokisme est l'un des outils, encore mieux, l'un des instruments idéologiques qui va conduire l'humanité vers ce nouvel âge d'or rêvé, qui est une utopie. Notons que toutes les utopies sont toujours meurtrières. Pol Pot, par exemple, lui aussi voulait créer un homme nouveau, des sociétés nouvelles, il a fait des millions de morts. Alors, là où vous avez dit une chose importante, mon cher voisin, vis-à-vis, c'est que destruction de la morale, mais parce qu'eux considèrent qu'ils ont une super morale, que c'est la morale absolue qui est une morale de la liberté, égalité, tout le monde est égaux. Oui. Et en fait, on se dirige vers l'indifférenciation. Mm-hmm. Alors que la nature, on parle de la diversité biologique, indifférenciation entre l'homme et la femme. Et je termine en disant, et en revenant à Freud, c'est pour ça qu'on a parlé de l'wokisme, présenté le wokisme comme un marxisme culturel, puisque Freud est le chantre du pansexualisme, comme Marx était le chantre du pan-économisme, de l'économie domine tout, l'économie, et pour Freud, c'est la sexualité qui domine tout. Mais non, l'homme n'est pas fait ni que d'argent, ni que de sexe.
Mais c'est la pluralité des normes, ce que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais des normes, c'est-à-dire qu'il y a ce rêve-là un peu, justement, il y en a qu'en Guillaume qu'on a parlé du normalopathologique, c'est-à-dire, c'est un peu un précurseur, c'est-à-dire
oui,
qu'on est dans, vous avez lu qu'en Guillaume, dans une forme de rêve idéalisé qu'effectivement, il n'y aurait plus la norme hétérosexuelle et compagnie. Et on veut détruire cette norme, on la hait. Alors, et donc, c'est pour ça, quand moi je termine sur LGBTQIA+, mais je prends ce symbole-là, mais il y en a plein d'autres, c'est-à-dire qu'on a mis le plus pour être sûr de n'exclure personne et de n'oublier personne. Dans le rêve wokiste, il y a cette envie d'être sûr de n'oublier personne, et il y a tellement de variables, de variations dans la sexualité, dans l'expression de la sexualité chez les personnes LGBT, qu'on a mis le plus, parce que même si vous demandez à la population ce que signifie queer, ce que signifie aromantique et tout, personne ne sait. Mais eux savent parce qu'il y a toujours une personne. C'est-à-dire, on est dans l'exception. On est, comme je vous parlais l'autre jour, on est dans les écarts-types de la courbe de Gauss, et on veut que ces écarts-types ne soient plus considérés comme quelque chose d'anormal, mais fassent partie de la majorité.
La doctrine.
Et on la hait, cette majorité. C'est pas vrai ce que je dis ?
C'est excessivement vrai. Et la doctrine du diable qui n'existe pas, comme chacun sait, c'est fais ce qu'il te plaît. Oui. comme chez McDo, viens comme tu es. Et surtout, le diable ne dit jamais non.
Voilà.
Et le wokisme, c'est oui.
Il est interdit d'interdire.
Mais oui, mais un truc important quand même.
Exactement.
C'est que là où je pense que Philippe n'est pas totalement. Je suis pas totalement d'accord avec lui. Le gauchisme, c'est quoi? C'est quand même un collectif. Un collectif, le gauchisme. Là, on parle d'individu. Jean-Luc Robert nous parle d'individu. L'individu, c'est le libéralisme.
Non, mais
l'individualisme, c'est ce que...
Ou l'individualisme.
C'est vrai.
C'est le libéralisme.
Non, alors, c'est pas les individus, c'est les individus...
Ben si, parce que LGBTQ+++, c'est l'individu.
C'est des catégories. Alors justement,
ce sont des communautés.
Et puis il y a plein de lettres après. Chacune désigne une catégorie. Et d'ailleurs, quand ces gens-là font des manifestations, ils font des petits papiers où ils mettent un tel à tel endroit, tel autre, alors homosexuel, machin, les différentes catégories de LGBT sont mises sont parfaitement classées dans les manifestations, et quand il y en a qui passent d'une catégorie à l'autre, ça crée des clashs, quoi. Donc en fait, non, justement, l'individu disparaît derrière une assignation.
Il n'est pas d'accord, Jean-Luc.
Non, je ne suis pas trop d'accord. Mais
allez-y.
En fait, j'entends ce qu'il dit, évidemment, mais on pourrait prendre ça pour énormément de choses. On n'a pas parlé, il y a les HPI, les HPE, il y a tout ça. Toutes ces personnes, systématiquement, effectivement, font partie de groupes, mais rejoignent un groupe. Avant, elles n'étaient pas visibles, ces associations. Et là, il y a une forme de se rendre visible. Donc, je vais rejoindre un groupe, effectivement. On n'a pas parlé également, on peut parler de l'islam également, ou des religions et tout. C'est-à-dire que c'est pareil, ce sont des groupes, mais c'est avant tout moi, je, effectivement.
C'est,
moi,
c'est le règne de l'individu.
Prends en compte ma particularité. Par exemple, je sais qu'à Euro Disney, il a été question de dire oui, mais on va pas faire des toilettes pour hommes et pour femmes. On va éviter de mettre les mots hommes et femmes. À Sciences Po, par exemple, pour donner un exemple, vous savez qu'une prof a été virée. C'est une prof de danse de flamenco, tout ça. Enfin, de je sais plus, de salsa. À Sciences Po, elle a été virée. Alors après 20 années de bons et loyaux services, pourquoi? Parce qu'on lui a demandé de ne plus appeler hommes et femmes dans la manière. Alors que quand on danse, on a besoin de dire que l'homme a un rôle et la femme a un rôle. Non, il ne faut plus. Et on lui a dit, il faut que tu parles de followers et de leaders. Et effectivement, sans employer ces mots, elle a été suspendue. Et donc, qui sont les problèmes? Alors, parce que vous en avez un dans une classe ou deux qui vont effectivement avoir des problèmes d'identité de genre au nom de ces une ou deux personnes, et c'est ça la tyrannie des minorités. Moi, j'ai un problème avec le fait que je ne me sens pas dans mon genre. Eh bien, j'impose à la majorité, c'est ça le wokisme, une minorité.
Alors, Philippe répond, et après Jean-Michel et Stéphanie.
Rapidement, c'est l'individualisme à condition de correspondre à des catégories prédéfinies. Hein. Si vous êtes individualiste et parce que vous êtes pour la différence des sexes, vous allez avoir une tribune d'une part et vous allez être considéré comme un vieux schnock conservateur. Hein.
C'est pas original. Tout ce qui remet en question les normes.
Donc c'est l'individualisme à condition de rentrer dans les cases LGBTQI, etc.
Il y a des contradictions, Jean-Michel. Des contradictions apparentes, mais qui ne sont en fait que des paradoxes. Paradoxe, c'est pas une contradiction. Et il faut revenir, et je mets là, ici, les pieds dans le plat. J'ai parlé tout à l'heure, et ça sera peut-être, on y reviendra, il nous reste une heure, de globalisme, de mondialisme. Que voulait Marx? Que voulait Lénine? Lénine, c'est pas Trotsky qui voulait la révolution mondiale, c'était Lénine et Marx. Il voulait, Marx, dans un ouvrage célèbre du début de sa carrière, sur la question juive, dit, mais il ne faut pas libérer les juifs, il ne faut pas les émanciper. On va émanciper toute l'humanité. Et quand l'humanité sera émancipée, les juifs le seront a fortiori. Le but, le propos, on forge un homme nouveau pour une société nouvelle et pour le fondre dans une gouvernance mondiale. C'est ça le véritable projet. Et le wokisme et l'idéologie et la religion, encore une fois, en tant qu'instrument, de la construction de cette gouvernance mondiale. Et moi, je traduis ça simplement. Que veulent ces gens avec l'hyperclasse au-dessus, une super élite dirigeante? Ils veulent transformer l'humanité en termitière. Nous serons tous des termites.
Voilà. C'est un peu le système de l'Union soviétique où tout le monde était habillé pareil, tout le monde devait rentrer dans le cadre, et puis il y avait la nomenclatura au-dessus qui, elle, avait tous les privilèges.
Voilà. Chère Stéphanie?
Alors oui, cette perte de repères, je pense qu'elle est effectivement organisée à dessein. On ne va pas toujours accuser les mêmes, mais l'hyperclasse quand même semble diriger le gros paquebot globaliste. Et en fait, il n'est pas seulement question d'hommes augmentés et d'eugénisme. Il y a aussi dans le LGBTQIA+++, d'aucuns disent qu'il y aurait l'idée de dépénaliser la pédocriminalité. En tout cas, de commencer à la faire admettre peu à peu, comme la grenouille
trempée dans l'eau tiède. C'est la finalité ?
Non, ce n'est pas une des finalités, c'est une des mamelles du grand projet. Puisqu'en fait...
Mais si on coupe les mamelles.
Voilà. Non, mais voilà, puisqu'on voit bien qu'il y a quand même, sur l'île d'Epstein, il y a aussi l'hyperclasse qui est allée s'amuser amplement et de manière totalement impunie jusqu'à présent. Et ça, ça fait quand même partie des gros problèmes actuels et qui infiltrent, qui pénètrent toute notre société.
Alors, on a beaucoup parlé de ces constats et tout, très bien, mais je remarque, chère Stéphanie, que parmi nos semblables, la population ou les gens que l'on connaît, eh ben, certes, parfois ils ne regardent pas Disney Plus ou Netflix, et encore.
Qui sont des drogues puissantes.
Qui sont des drogues, puissantes. Mais je ne vois pas de rébellion populaire, alors que le wokisme est partout. On a parlé de la pub, d'une pub là sur la sécurité. Mmh. Bon, j'ai pas vu des consommateurs dire attendez, c'est
mais parce qu'ils vont chez Lidl et que les fins de mois sont difficiles.
Mais les consommateurs ne se rendent pas compte de ça.
Il y a quand même déjà.
Ils sont sous anesthésie.
C'est la grenouille, comme disait madame.
Oui. Ah oui, c'est
aux États-Unis. Aux États-Unis et en Angleterre, il y a quand même un début de retour.
En Suède aussi.
Un écrivain qui a publié un livre là-dessus récemment, parce qu'ils ont commencé avant nous, donc ils sont déjà dans le retour, dans la critique. Il y a des pays, alors, je ne sais plus lequel.
La Suède, la Finlande et la Grande-Bretagne.
La Suède qui vont arrêter de conseiller les opérations changement de sexe pour les mineurs.
Très tôt.
Alors qu'avant, ça pouvait se faire. Maintenant... ça va être déconseillé au moins jusqu'à 18 ans. Donc, alors, c'est un
non, mais
progrès.
Tu as raison.
Et voilà, mais... la réaction des parents d'élèves dont tu as parlé tout à l'heure, c'est un début de réaction. Parce que quand on touche aux enfants, bon, là, quand même, les gens, sont idéologisés...
Je suis d'accord.
Il y a un début de réaction, quand même.
Mais en Amérique, on ne revient pas... au conservatisme des Américains des années 50.
Ah non, mais
voilà. Si on l'a vu à propos.
Personne
n'accepterait. Trump, n'oubliez pas que Trump.
Vous pensez qu'il accepterait les Américains ?
Trump n'a pas fédéralisé la loi sur l'avortement et a laissé la responsabilité à chaque État de légiférer en ce domaine. Et ce qui a fait pousser des hurlements à toute la planète, puisque l'avortement est un droit non seulement fondamental, mais sacré. Je voulais dire quelque chose d'important à propos justement des mutilations des petites filles qui sont irréversibles. Après, vous êtes sous thérapie médicamenteuse pour le reste de votre vie. Le wokisme est une politique d'État dans la mesure. Le bon exemple, c'est de dire que toutes les opérations, c'est 20 000 euros pour les seins, au moins, ou 15 000 euros. Les cordes vocales qui doivent être refaites, redessinées, la disparition, les hommes ont une pomme d'Adam, c'est comme ça, c'est vilain. On en arrive à un total de 100 000 euros et tout est remboursé par l'État.
En France.
Pendant qu'on nous dérembourse des soins dentaires.
Voilà.
Vous venez de le dire à ma place.
Voilà.
Et ils ne sont même pas remboursés du tout, j'en sais quelque chose.
Bah tiens, justement, cher Jean-Luc, vous êtes psychologue, vous traitez aussi des enfants. Est-ce que vous avez des enfants avec parents qui viennent pour cette fameuse transition ?
J'en ai eu rarement, mais j'en ai eu.
Mais racontez-nous justement votre expérience.
Je ne peux pas trop raconter, vous savez, normalement...
Non, bien sûr, il y a le secret professionnel,
mais
globalement...
Vous êtes anonyme.
Anonyme, bon, c'est important, mais alors je vais parler d'une pathologie que je connais bien, c'est dans ce cadre-là, après il peut y en avoir d'autres, ce sont des cas d'autisme. Alors vous allez dire, mais quel rapport ? En fait, dans les pathologies autistiques et puis même d'autres jeunes, ce qu'il faut savoir, c'est que ces jeunes sont très influençables. Alors, ça pourrait être aussi cas borderline. C'est certes, dans ces difficultés, dans ces pathologies-là, on a un côté très influençable. Alors, comme ils sont influençables, des fois, ils passent par des piercings, des tatouages et autres, ils passent par des modes comme ça. Bon, OK, là, c'est pas forcément irréversible ou réversible, mais c'est moins grave. Mais effectivement, comme je vous l'ai dit, avec le phénomène donc, d'imitation sociale et de phénomène on a de plus en plus, par exemple, de femmes, de jeunes filles qui veulent devenir des hommes. Et on appelle ça des clusters dans certaines classes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais soudain, dans une classe, vous avez 4-5 filles qui veulent transitionner. auditionner en même temps. Vous vous rendez bien compte que statistiquement, c'est pas possible. Ça veut dire qu'elles sont vite...
Les lois de limitation.
Ça veut dire, voilà.
C'est un grégaire.
Ça veut dire que...
L'imitation, oui, le mimétisme.
Voilà. Gabriel Tarde.
Voilà, et ça veut dire que il y a un phénomène d'imitation, comme vous disiez, un phénomène de mode qui fait que d'un seul coup, 4 ou 5 filles qui sont mal dans leur peau, c'est... Ça, on le, encore une fois, on
l'adolescence.
Ne, oui, c'est mais ça, on le met jamais en avant. Et moi, qui suis psychologue, je le constate, qui veulent donc à ce moment-là penser qu'en transitionnant, elles iront mieux. Et comme elles sont influencées et influençables, parce que dans leur pathologie, il y a quelque chose de l'ordre de je cherche mon identité, je ne me reconnais pas, je suis mal dans ma peau, alors elles vont adopter ce phénomène de mode.
Et les parents les accompagnent.
Et voilà.
Ça, le pire.
Et de plus, et avec une forme de complicité d'éducation nationale, j'insiste, même si j'entends.
Pas une forme de complicité, une réelle complicité.
Une réelle complicité.
Je parlais du remboursement, oui. Du remboursement jusqu'à hauteur de 100 000 euros.
Oui. Une sorte de protection de ce que pense l'enfant, de mettre l'enfant toujours en avant. Alors même si je sais que la loi est revenue sur la question de changer l'appel, le nom de l'enfant qui veut se faire appeler autrement, mais ça va quand même jusqu'à là dans l'idée de « appelez-moi autrement, je veux plus m'appeler, je sais plus quel nom, je veux qu'on change de prénom », ça va beaucoup par là. Et on est beaucoup à l'écoute de l'enfant. Et justement, c'est un de mes dadas, hein, on est beaucoup trop à l'écoute de l'enfant aujourd'hui, puisque j'en ai parlé avec l'éducation positive. Et je crois que réellement que ça va... Bah oui,
parce
que...
La fessée est interdite, tout est interdit.
Oui, tout, voilà, vous êtes d'accord avec moi.
Alors. On va pénaliser le fait que les parents n'accompagnent pas leurs enfants dans
de
la transition.
De plus en plus, les parents, voilà ce que j'allais dire, sont presque destitués de leurs droits, si je puis
pas
dire.
Presque, ils sont destitués.
Oui, non, mais...
Pardon.
Presque, non, mais vous savez bien. Mais oui, parce qu'ils n'ont plus...
Mais des nuances.
Oui, ils n'ont plus leur mot à dire. C'est-à-dire qu'il y a tout un système, et on en parlait l'autre jour avec l'éducation sexuelle à l'école, où à leur place, parce qu'avant c'était qui faisait l'éducation sexuelle des enfants, c'était les parents, mais à la place des parents, on éduque leur enfant, à la place des parents, on a l'autorité, alors les parents ne savent plus avoir d'autorité, parce qu'aujourd'hui, il ne faut plus avoir d'autorité, donc les parents se retrouvent, les enfants se retrouvent avec des enseignants qui sont censés avoir l'autorité, mais qui n'y arrivent plus, mais les parents sont presque démissionnaires là-dessus, donc en fait, on a une société inversée.
Ben justement, j'aimerais que Stéphanie, tu rebondisses là-dessus, puisque tu as eu, justement, à l'école de tes enfants... Comme tu as parlé tout à l'heure.
Oui, absolument. J'étais en train de. je voulais rebondir sur ce que vous avez dit. J'ai réussi à élever mon fils sans lui mettre de fessée. Mais c'est pas du tout un enfant roi, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné.
Il y a des enfants faciles et d'autres qui le
font. Oui, non, mais il n'est pas forcément. Il n'est pas toujours facile. Mais quand il y a un certain ton de voix, il comprend qu'il dépasse des limites. Et je crois que les choses sont très claires.
Vous venez d'utiliser un mot important, limite.
Voilà.
Nous sommes dans une société sans limites. On ne pose plus de limites. On refuse les limites.
Mais regardez, que le professeur ou l'enseignante de l'école de ses enfants dise voilà, il faut transitionner. Enfin, parler de transitionner. C'est pas rien, c'est parce que l'instituteur a une forme de légitimité, représente l'État.
Oui, alors c'était pas dans la classe de mon fils, hein. C'était dans la classe d'une amie à lui, et donc j'ai discuté avec les mamans d'élèves. Et je me suis dit, il y a une lueur d'espoir, puisque ce sont des jeunes femmes qui avaient complètement adhéré
soumises à l'autorité de l'État en matière de vaccination.
Voilà, ça au moins c'est dit. Je crois qu'il a les choses à ma place. Et donc, je me suis dit...
Pardon.
Ouf, j'ai eu une bouffée d'oxygène. Je me suis dit, tant mieux.
Oui, mais est-ce que si l'État avait dit... Si Macron avait dit, voilà, nous sommes en guerre contre X et Y, et a dit, voilà, vos enfants doivent transitionner pour que vous ayez droit à un pass sanitaire que vous permettra d'aller au restaurant. Qu'est-ce qu'ils diront, les parents? Bah tiens, ça, je vais avoir la réponse.
Je crois que là, ça ira trop loin, parce que... Ils ont cru au produit miracle.
Parce est-ce que les parents vont dire non, quand même, là, ça va trop loin?
À mon avis, ça irait trop loin. Je ne sais pas quels sont les avis de mes collègues.
Ouais, moi, je ne suis pas totalement sûr.
À part certains, vraiment, qui sont...
Toi, tu penses que ça irait trop loin?
Oui, parce que quand on touche aux enfants...
Oui, là, mais quand même. Il y a un instinct. L'instinct n'est pas entièrement mort.
Voilà, il y a un instinct qui se réveille et voilà. Donc, ça
bah, écoutez, pas, moi, il se trouve que j'ai un ami, là où j'ai fait ma fête des 100 000 abonnés Twitter.
Je me souviens très bien.
Et il m'a dit encore dernièrement qu'à l'école de ses enfants, d'ailleurs, il cherche un collège pour ses bombes, il fait tout Paris pour trouver un collège où il n'y a pas de wokisme. Mais bon, c'est, pour lui, ça a l'air d'être compliqué.
C'est compliqué.
Et voilà. Et... Il me dit que pendant la crise sanitaire, je crois que 95% des parents validaient toutes les mesures contre leurs enfants.
Bien sûr.
Et c'était dans une école de dans une primaire de
les 11 vaccinations à la naissance.
Oui, ils ont validé.
S'il y a une dictature ou même une tyrannie, c'est bien celle de l'OMS et tout le monde dit amen.
Mais oui.
Puisque c'est
les
pour
parents n'ont pas
c'est pour
non,
notre bien,
surtout,
c'est pour un souverain
France,
bien.
Il y a même qu'en France qu'on est à 11. Hein.
Oui.
Dans les autres pays européens, il n'y a pas autant et souvent c'est optionnel. En France, c'est 11 obligatoires.
Donc c'est pas vrai qu'on dit on touche aux enfants, c'est pas vrai.
Et je signale aux parents une chose importante.
Je le déplore. Oui.
J'ai appris pour les parents qui ont des enfants, pour les rappels de 6 et 7 ans, vous allez sur le site du gouvernement, hein, ce n'est pas moi qui l'invente, les rappels sont recommandés, mais non obligatoires. Mmh. Et beaucoup de parents l'ignorent, et j'en ai parlé à une maman d'élève il n'y a pas longtemps, elle me dit, ah bon, ce n'est pas obligatoire, mon médecin m'a dit que c'était fortement
obligatoire. J'ai un commentaire, The Fat Cap Theory, qui nous dit, mon fils était le seul de sa classe à ne pas être, on va utiliser le terme, injecté.
Mmh. Comment a-t-il été admis ?
Bah, il était le seul à ne pas être injecté, visiblement. Bon. Peut-être qu'il a moins de 16 ans, donc l'école
obtient
de 16
ans. C'est pas obligatoire, mais c'était.
Mais en tout cas, il était le seul.
Voilà, il était le seul.
Non, je peux dire un mot là-dessus. Allez-y. Je pense que tout ça, ça marche avec la pression. La pression, c'est important. Moi, malheureusement, je me suis fait vacciner, j'ai pris deux doses. Je suis pas là pour parler de moi.
Hein. Vous dites juste injecté. Hein,
injecté, voilà. Ah, sinon, on est censuré. Ah, oui.
Voilà. La vidéo va.
Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une sorte de pression. Alors, j'ai bêtement cédé à la pression. J'étais.
Voilà. Mais bravo de le reconnaître.
Ah non, mais je le reconnais. C'est bon. Mais ce qui compte, c'est pourquoi. Alors que pourtant, je suis quand même forte personnalité, fort caractère. J'ai cédé à la pression, comme beaucoup de gens.
Oui.
À la pression, c'était quoi ? Salle de sport fermée, cinéma fermé. À un moment donné, on n'a plus de vie. Quand on est quelqu'un de très actif, bah, à un moment donné, on craque.
Je confirme que monsieur est très actif. Hein. Il vient avec sa roue.
Et donc, c'est important. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que je voulais surtout dire un mot sur le groupe de pression. Je vais y revenir. Je veux parler de Dora Mouto, que j'ai écouté cet après-midi. C'est hyper important sur Transmania. Moi, j'ai trouvé ça édifiant quand elle a raconté à quel point elle était, on peut dire un mot anglicisme, bâchée, censurée.
Vous n'êtes pas sur Courtois.
Oui, voilà, pas sur Courtois.
Vous pouvez le dire.
Donc, elle était bâchée de partout. Elle a raconté l'impact sur sa vie pendant 4 ans d'avoir fait cette enquête. Elle a perdu. Pas que des amis, si ce n'est que ça.
Et ses boulots, tous ses contrats.
Tout ça. Et elle a dit un truc qui était vrai. Elle a dit, il y a toujours quelqu'un qui dit à la dernière minute, ah non, pas Dora Mouto, c'est une fasciste, c'est une ceci, c'est une cela. Et d'un seul coup, on l'écoute toujours.
Elle est d'extrême droite.
Extrême droite. Non, sur votre page
c'est
Wikipédia.
Extrêmement important de dire ça, parce que ces deux femmes-là, j'ai plus le deuxième nom, Marguerite Stern et Dora Mouto, mais elles sont d'une autre. Elles sont constituées d'une certaine manière, mais tout le monde n'a
elles
pas.
Elles sont adultes.
Oui, elles sont. Ce que je veux dire, c'est que face à cette. Elles ont un courage énorme. Face à cette pression, la plupart des gens cèdent. Et c'est ce qui se passe avec le wokisme. Oui, oui. C'est-à-dire que quand
on vient de voir ici qu'il y a des mots qu'on ne doit pas utiliser, il faut faire attention. Il y a des zones dangereuses.
Quand vous êtes revenu à l'école, quand vous êtes une école, quand vous êtes un groupe, une société quelconque, et que vous avez peur d'avoir derrière une communauté LGBT qui va faire un standing devant votre école, qui va vous donner une sale réputation à votre école, qui va dire que vous n'êtes pas tolérant, que vous n'êtes pas si machin, eh bien, les directeurs d'école ou même toutes les personnes qui ont le pouvoir de décider n'ont jamais le pouvoir de dire non, je m'oppose à ça, moi dans mon école en tant que directeur il n'y aura pas ça, ils sont pas capables de ça parce que l'autre, le directeur là il a pas envie de perdre sa place. Donc l'éducation nationale, pareil, à plat ventrisme, personne ne veut perdre sa place et c'est ça qui est hyper important, c'est que j'aimerais que dans cette société il y ait plus de Dora Mouto, des personnes courageuses, mais par contre qui soient prêtes à tout perdre parce que vous perdez, elle a perdu beaucoup,
Stéphanie.
Voilà.
Je voulais en profiter pour placer ce que Ariane Bilran explique dans son livre.
Pour placer son interview, vas-y.
Voilà, de rien, vas-y. Comme ça, oui. Psychopathologie du totalitarisme, bientôt sur Tribune Libre.
Oui.
Elle dit qu'effectivement, ces comportements-là, donc qui sont étudiés notamment lors de d'une expérience de H qui mesure le degré de conformisme et de soumission à la pression du groupe.
Oui.
En fait, c'est une question de force de caractère et de structuration psychologique. Oui. Et non pas une question d'intelligence.
Ah ben non.
Et c'est bien pour ça que pendant toute la crise sanitaire, entre guillemets, les gens se sont dit, mais je comprends pas, il y a des bacs plus 12.
Mais non,
des
bien
deux
sûr.
Côtés, il y a les bacs plus 12 qui se sont soumis, enfin bon, le niveau d'études qui mesure certaines formes d'intelligence.
Oui.
Et les gens se disaient, mais en fait, il y a des gens intelligents qui ont
mais l'intelligence n'est pas le caractère.
C'est l'expérience.
C'est une question de structuration psychologique.
C'est l'expérience de 1000 grammes.
Alors vous ça, c'est parler. La soumission non, à l'autorité. Et l'expérience de H, c'est la soumission au conformisme.
Oui, mais à l'autorité, c'est la même chose. L'expérience de Millerat.
Les deux sont cousines.
Je vous renvoie à la Boétie de la servitude volontaire.
Ah, mais ça, c'est magnifique, mais, ça, c'est un génie.
Mais ce que vous dites pas, enfin que vous savez certainement, c'est que ce dont vous parlez reste une exception, malheureusement. C'est-à-dire que la masse, la populace dans laquelle je me comprends, ben, vont être des suiveurs. Ils vont pas avoir le caractère de pouvoir dire « moi, je me rebelle face à ça ». La plupart des gens ne vont pas oser.
Mais c'est pour ça que je dis que dans 10 ans, 15 ans, si on refait une même communication sur la transition, comme on l'a fait là en 2020, je pense que beaucoup
auront transitionné. Mais justement, peut-être qu'on atteint les limites. Enfin, l'espoir que je voudrais avoir. Autant pour l'injection, c'est encore le discours de la santé. Nous sommes le pays de Pasteur, donc on peut tout à fait comprendre
le formatage.
Que les gens acceptent. Et moi, je ne leur jette pas la pierre. Autant avec tout le wokisme, tout ce que ça génère, le changement de sexe, avec les opérations chirurgicales, donc les gens commencent à comprendre ce qui se passe quand on fait ça, les hormones, tout ça. Et puis tout le discours qui va avec. Il y a quand même un mouvement de recul, il faut le noter. Et dans les pays anglo-saxons qui sont plus avancés que nous, il y a un recul. Il y a un retour en Angleterre, je disais tout à l'heure. Les opérations ne vont plus être conseillées avant 18 ans. C'est un petit progrès, voilà. Bon. Et en France, il y a le livre de Dora Mouto et Marguerite Stern, Transmania, c'est aussi une réponse. Le fait que ce livre ait un énorme succès à la vente et qui suscite chez les
gens. Non, mais c'est 10 000 exemplaires.
Non, numéro 1 sur Amazon. Non,
quatrième,
dans les
5 premières
zones, c'est pas. C'est la première libération. C'est un signe d'espoir.
Les utopies.
Qu'on a gagné quand Mathieu Loki.
Les utopies sont meurtrières, mais elles sont aussi périssables.
Voilà.
Je comprends ce que vous dites.
Donc, c'est la parole d'espoir, et vous avez raison.
Absolument. Je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai vu 2020-2023, et je sais que si on remettait ça en place, eh ben, les gens, parce qu'on leur dira oui, mais vous n'irez pas à ceci, cela, les gens continueront. Et d'ailleurs, tiens, Dora Mouto est venue, est allée à RMC, aux Grandes Gueules, et elle a eu des témoignages de mère de famille qui disait « Ah, mon enfant va transitionner parce qu'en effet, elle n'aime pas porter des robes, donc elle va devenir un garçon, et je l'encourage à faire ça. »
Alors, il faut abandonner l'idée de démocratie pure. Ce n'est pas la masse qui décide, ce sont des minorités, effectivement.
Actives.
Mais des minorités non seulement actives, mais véritablement éveillées, qui remettent la population dans le droit fil de la conscience. Ce sont toujours des minorités qui ont dirigé en bien ou en mal.
Mais ce que disait monsieur, c'est que le wokisme, si je peux me permettre, ce n'est pas que ça. Parce que vous parlez beaucoup du transgenrisme en disant les gens se réveillent parce qu'on touche à leur enfant. Mais c'est protéiforme, le wokisme. C'est énorme. Parce qu'on n'a pas cité.
C'est une gangrène. Ouais,
mais le problème, c'est pourquoi moi je suis plus pessimiste. C'est qu'une fois qu'on a avancé, vous savez, certains disent viser la Lune. Vous visez la Lune, mais ce n'est pas ce que vous voulez atteindre. Vous visez quand même la Lune pour en avoir un peu. C'est-à-dire, et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens sont aveuglés par le transgenrisme. Ah là là, c'est grave. Mais qu'est-ce que vous faites des autres formes de wokisme quasiment qui s'infiltre dans la société. Par exemple, même aujourd'hui par rapport à dans nos vocabulaires, par rapport à l'écriture inclusive, plein de choses, beaucoup de choses changent.
Ça prend pas trop.
C'est imposé à l'université et il y a des choses. Maintenant, moi j'ai employé l'homme avec un
gros. Vous qu'enseignez.
Moi je suis un peu coincée parce que je suis un peu dedans, je peux pas trop dire. Mais en gros, on impose des choses à l'université, une nouvelle façon de parler, il faut mettre les points ES et compagnie. Et c'est effectivement, si vous ne le faites pas, vous êtes blacklisté. Et ça, petit à petit, pardon, moi qui viens de parler de l'homme avec un grand H, vous savez qu'on ne peut plus dire ça. Il faut que je dise les femmes et les hommes. Il faut pas que je dise les hommes et les femmes, il faut que je dise les femmes et les hommes. Ben vous savez bien, puisque le ministère femmes-hommes...
Celles et ceux.
Et les non-binaires.
Voilà, les non-binaires. Non, mais ça change. Et ça, à mon avis, ça restera. Enfin, ça restera une partie. Et puis, on n'a pas parlé du reste, parce que toutes les formes, j'ai parlé HPI, HPE, tout ça, toutes les minorités qui se sentent marginalisées dans les difficultés, vous savez ce que c'est, HPI, HPE, je ne vais pas rentrer tout ça, sont des groupes qui font pression pour qu'on quitte, on dise, en fait, on est dans l'ère de la neurodiversité. C'est-à-dire, en gros, nous avons un fonctionnement neurologique et neurobiologique constitué différemment, une forme d'atypicité.
Ça, c'est l'individu roi.
L'atypicité, c'est l'individu roi. L'atypicité.
Concluez, parce que là, on est en retard.
Eh bien, et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est protéiforme, que ça infiltre la société, mais qu'en fait, sous des formes où la plupart des gens dorment, ne se rendent absolument pas compte de quoi il s'agit. Et c'est pour ça qu'on ne pourra pas venir à bout de cette hydre.
Merci beaucoup.
Pour moi, aujourd'hui.
Nous sommes en guerre, a dit Monsieur Macron.
Voilà, totalement.
Nous sommes en guerre.
Merci à vous pour cet excellent débat. On va passer à l'édito de notre ami Philippe Erlin. Mais avant ça, les petites annonces.
On a fait de la route grâce à vous. Merci. On va continuer. Ensemble, on va lutter contre le pouvoir profond. Comment ? Grâce à vos dons et notre travail. Au-delà de la réinformation, c'est notre engagement. Rendez-vous sous la vidéo pour nous soutenir.
Merci à vous d'être si nombreux, 5200 personnes avec notre compte X. Merci, vraiment, nous vous remercions. Continuez à nous soutenir sur le Tipeee Stream. Voilà, vous voyez, c'est entouré, vous cliquez dessus. Cette émission, c'est la vôtre. On est là pour vous tous les soirs pour vous apporter des grands débats et de l'information. Donc là, on va avoir l'édito de notre ami Philippe Erlin. Tu vas parler de quoi déjà ?
Alors, j'ai parlé de la smicardisation. Ah. Et du salaire décent. La smicardisation, c'est un terme qui a été popularisé par Gabriel Attal, notre Premier ministre, qui, à partir d'un chiffre, en 2023, on a 17,3% des salariés qui sont payés au SMIC. Et c'est un chiffre hors agriculture. Alors, je ne sais pas pourquoi on a mis de côté les agriculteurs. Je pense que si on les avait mis, le chiffre aurait explosé, mais on met les agriculteurs de côté.
Non, parce que les agriculteurs, soit ils sont sous le SMIC.
Alors là, ils sont sous le SMIC. Et voilà.
Et donc, les retraités aussi.
Voilà, mais si on les avait mis, je pense que le chiffre aurait été plus élevé. Enfin, ça fait quasiment un Français sur cinq qui est payé au SMIC. Ouais. Alors qu'on était autour de 10% sur la période 2010-2018. Et en 1967, en pleine Trente Glorieuse, on était à 3% seulement. Voilà. Donc ça veut dire que l'ascenseur social est complètement cassé. Parce que quand on est à 3%, ça veut dire que c'est vraiment un salaire minimum. On rentre dans l'entreprise, on est au SMIC, et très vite, ensuite, on monte soit en qualification, soit en salaire, et on quitte le salaire minimal, quoi. Alors que là, le salaire minimal, bah, ça devient un salaire moyen, un salaire quasiment à vie pour beaucoup de gens. Alors, il y a plusieurs causes pour expliquer ça, notamment le fait que le SMIC soit indexé sur l'inflation automatiquement, alors que les salaires un peu au-dessus ne le sont pas, eux, par la loi. Donc le SMIC a tendance à écraser par le bas, à remonter les autres salaires, et donc c'est un effet qui explique qu'il y a de plus en plus de Français payés au SMIC, un écrasement des bas salaires. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas assez de gains de productivité et de croissance, quoi. Donc il ne peut pas y avoir de hausse vraiment des salaires, de l'ensemble des salaires. Et puis, il y a un coût salarial des bas salaires, malgré les allègements de charges dont bénéficient les salaires au SMIC ou juste au-dessus. Et puis, une augmentation des emplois faiblement qualifiés, c'est-à-dire c'est tous les métiers de service ou les métiers de livraison de repas. C'est payé au lance-pierre, vraiment. Et ça se voit quand on regarde les différents secteurs. C'est-à-dire, autant dans l'industrie, le pourcentage de salariés payés au SMIC est extrêmement faible. Par contre, dans la restauration et l'hébergement, on est à 40% des salariés qui sont payés au SMIC. Dans les services administratifs, des métiers assez répétitifs, on est à 35%, quoi. Bon. Alors le pire, c'est que le SMIC, même s'il augmente et il suit l'inflation, le problème, c'est que c'est pas un salaire décent, entre guillemets. Alors d'où vient cette expression ? On l'a entendu la semaine dernière par la société Michelin, qui a déclaré que tous ses salariés dans le monde étaient payés un salaire décent. Alors qu'est-ce qu'un salaire décent ? Il n'y a pas vraiment de définition qui a été posé, notamment pas par l'INSEE. Je pense que justement l'INSEE a tout à fait les moyens de calculer ce que serait le salaire décent, mais qu'ils ne le font pas pour ne pas déplaire au pouvoir. Hein, voilà, parce que si jamais ils annonçaient les vrais chiffres, ça montrerait à tout le monde que le SMIC est un salaire de misère. Voilà. En tout cas, pour Michelin, qu'est-ce qu'un salaire décent ? Alors si on prend le SMIC mensuel net, c'est 1400 euros. Voilà. Pour Michelin, un salaire décent quand on habite à Paris, c'est 2600 euros. C'est-à-dire, pour avoir un loyer, pour payer le loyer et manger, et voilà, c'est 2600 euros, c'est 85% de plus. Si on vit à Clermont-Ferrand, si on vit donc en zone rurale où les prix sont quand même moins élevés, le salaire décent pour Michelin, c'est 1700 euros net par mois, ce qui fait quand même 20% de plus que le SMIC. Donc ça veut dire que le SMIC, pour Michelin en tout cas, hein, le SMIC, même à la campagne, ça ne permet pas de vivre correctement, quoi. Ce qui est quand même assez cinglant, comme une critique assez cinglante, quoi. Alors Michelin le fait Ils peuvent le faire, en fait, parce que c'est une industrie qui est très capitalistique, parce que c'est fabrication de pneus, c'est beaucoup de capital pour fabriquer la gomme et mouler ça, c'est des grosses machines. Donc, en fait, dans le coût final d'un pneu, la part de la main-d'œuvre est assez faible. Par contre, quand on est dans la restauration, bah là, la part des salaires est très élevée, donc c'est impossible ou très compliqué pour les restaurateurs d'augmenter les salaires, quoi. Voilà, on comprend bien que ça peut pas trop se faire. Alors, comment est-ce qu'on pourrait sortir de la smicardisation pour essayer d'aller vers un salaire décent? Ben, ça va être compliqué parce que, en fait, il faut faire des gains de productivité pour qu'une entreprise puisse augmenter ses salaires sans se mettre en faillite ou en perte. Il faut des gains de productivité. Et ça, les gains de productivité, c'est essentiellement dans l'industrie qu'on les fait. Malheureusement, nous, notre industrie, elle a été vraiment assez affaiblie. On est à peu près à 10% du PIB, alors c'était à 20% il y a quelques décennies. Donc il faut réindustrialiser la France, donc tout ça va prendre du temps. Et puis il faudrait baisser le coût salarial pour les salaires, pas seulement les bas salaires, mais aussi tous les autres salaires, pour éviter cet écrasement par le bas. Mais malheureusement, on n'en prend pas le chemin, donc malheureusement, le pourcentage de Français payés au SMIC risque encore d'augmenter dans les années qui viennent.
Il faut rajouter que sur le SMIC, il y a très peu de charges.
Alors, oui, c'est les emplois, il y a assez peu de charges, mais ça fait quand même. Mais pour beaucoup d'entreprises, c'est déjà trop. Qu'on a des problèmes,
bien sûr,
de productivité et d'efficacité.
Mais lorsqu'on passe d'un SMIC à 1400 net, à 1500 ou 1600 euros, c'est un doublement de charges.
Voilà, alors ce qui
par
se passe,
rapport,
parce que l'effet pervers des allègements de charges qui sont pour le SMIC ou 1,3 SMIC ou 1,6 SMIC, c'est que quand vous êtes presque à 1,3 ou presque à 1,6, si vous demandez une augmentation, pour votre entreprise, ça va représenter une charge énorme parce qu'elle va perdre les avantages de la défiscalisation, de l'allègement de charges. Donc en fait, ça crée une trappe à pauvreté, tous ces allègements de charges. Ça part d'une bonne idée au départ, mais en fait, ça maintient les gens dans le SMIC ou à peine au-dessus du SMIC, quoi. Donc, c'est pas non plus une solution. Il faut quelque chose de progressif et il faut globalement un poids des charges, des taxes et des impôts qui soit plus bas, parce que la France, je rappelle, la France, c'est le pays où le taux de prélèvement obligatoire est le plus élevé au monde.
Mais au vu de la protection sociale à la française et de.
Mais en plus, ça marche pas.
Je pense pas que demain, ils baisseront les charges.
Aujourd'hui, non. Mais la priorité, ce serait de réindustrialiser déjà, pour avoir des vrais gains de productivité. Mais ça, bon, on n'en prend pas le chemin, malheureusement.
Si, grâce à l'Ukraine.
Oui. On relance un peu les industries de défense.
Voilà.
Mais avec de l'argent qui vient de la dette, donc c'est pas forcément.
Mais justement, qu'est-ce que vous en pensez, ça? Tiens.
On parle du revenu, le SMIC. Effectivement, les agriculteurs sont souvent à 800 euros par mois, ou les femmes d'agriculteurs, les compagnes. Mais si on regarde globalement les revenus, je parlais tout à l'heure, j'ai mentionné subrepticement les retraités. Les retraites sont catastrophiques pour une masse. Alors il y a des gens qui ont de très belles retraites, c'est certain, mais pas tous.
Vous savez, j'ai appris que Gérard Jugnot, qui a fait beaucoup de films, qui a gagné beaucoup d'argent dans sa vie, qui a beaucoup cotisé. Bon, alors il a une retraite confortable, mais par rapport à ce qu'il a cotisé, c'est pas terrible. Il a, je crois, un peu moins de 3000 euros par mois.
Non,
c'est pas. C'est pas gigantesque.
Pas gigantesque. C'est beaucoup d'argent par rapport à quelqu'un qui est au SMIC, justement. Mais si on a cotisé, je sais pas moi, 1 ou 2 millions d'euros dans sa vie, ça me paraît pas énorme.
Si on paye.
Il a gérer son argent. Il a même pas.
Non, c'est pas du tout. C'est.
Ouais, c'est cotisation. Voilà.
C'est cotisation.
Cotisation simplement.
J'espère que par ailleurs, il a mis de l'argent de côté.
Il a capitalisé, j'espère.
Parce que même s'il n'a pas de loyer, il faut payer les charges.
On va pas pleurer pour lui parce qu'il est riche. Mais ce que je veux dire, c'est que
riche.
C'est un peu une arnaque.
C'est étonnant.
Définir riche, ce serait pas mal. Comme il faudrait aussi définir le capitalisme.
Non, mais c'est subjectif.
Non, mais c'est un acteur qui est à un.
Oui, qui est connu.
Je crois qu'entre 2006 et 2020, il était à 3-4 millions d'euros par an. Donc il est riche.
C'était pas mal, oui.
Voilà. Mais par rapport à ce qu'il a cotisé, s'il gagne 3-4 millions d'euros par an, et au final, ça lui revient à gagner 3 000 euros par mois de retraite. Ah, putain, alors je trouve que l'État, c'est sucré quoi sur sa tronche.
Bon, enfin, il y a peut-être des mystères dans le cas Junio. Toujours est-il que...
J'ai pris ce cas-là, ça, je
pense. Là, il faut revenir, et vous le disiez, tout le monde le dit, c'est que les charges patronales, le coût du travail est exorbitant. Il vaudrait mieux donner la différence aux salariés, hein, réduire au minimum, supprimer les charges, le salarié, vous êtes d'accord avec moi, pourrait les réinjecter dans la consommation.
Voilà, ou
par exemple,
sa propre retraite. Moi, je défends l'idée que au moins une part des cotisations retraite, on puisse décider, si on veut, c'est pas obligatoire, de les mettre dans de la...
Oui, 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 qu'on puisse ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier.
En plus, ça pourrait financer l'économie. Et ce serait un bien pour tout le monde. Mais ça, personne en France n'ose
dire.
J'ai
appris par David Lisnard. Je ne sais pas si tu...
Ouais. Si je suis un petit peu le loin. Bon,
si je suis. J'ai appris par David Lisnard que l'État donnait 150 milliards par an de subventions aux entreprises. Alors, je ne sais pas si c'est des grandes, petites, moyennes. Bon, en tout cas, il en donne 150 milliards. Et lui avait fait une proposition qui n'était pas inintéressante. C'était de ne pas faire donner ces 150 milliards. Et à la base, de faire des allègements
de charges. Et de baisser les impôts, bien sûr.
Arrêter de subventionner les journaux, arrêter de subventionner le cinéma d'une nullissime. Il y a des tas de choses qu'on ne pourrait pas subventionner.
Tiens. Est-ce qu'on devrait arrêter de subventionner le cinéma, toi qui es actrice ? Enfin, comédienne, pardon.
Comédienne, peu importe, les deux termes sont possibles. Eh ben,
Le mauvais cinéma, il faut...
Oui, oui, bien sûr, parce qu'il reste encore quelques pépites, mais oui, je pense que subventionner grassement comme ça, ça encourage des gens
à pantoufler.
Certains réalisateurs qui ont leurs entrées au CNC pantouflent, et puis finalement, on se retrouve à s'avaler, enfin moi, je ne les avale plus, hein, mais des navets dans des salles. Et je trouve ça dommage, en fait.
Ils font 30 000 entrées.
Je trouve ça dommage pour la culture française.
Le CNC, cette année, je crois, a eu une dotation de 10% de plus. Je crois qu'il a 900 millions d'euros par an. C'est beaucoup d'argent. Hein.
Comme la presse.
Qu'est-ce que vous en pensez, cher Jean-Luc? Là, on parle d'économie.
De vos sujets, mais j'ai quand même un avis. Moi, je pense que l'écart se creuse entre les élites et ceux qui ne sont rien, selon
les déplorables,
Hollande, les sans-dents, si je puis dire.
Les sans-dents.
Non, l'écart se creuse, et ça, vous le confirmez, et je me pose la question, pourquoi cet écart se creuse, et je pense au cinéma, puisque pour revenir au cinéma, au film de fiction, où on a le monde d'en haut, le monde d'en bas, et moi, j'ai quand même le fantasme comme ça, qu'on va vers un salaire universel. Voilà. C'est-à-dire que le fameux SMIC, là, dont vous parlez, je pense qu'il sera, on n'aura plus besoin de travailler pour l'avoir, et qu'il va être assigné comme ça à la naissance.
Alors,
on y sera bientôt.
Vous en pensez, oui, Jean-Michel?
C'est épouvantable, parce que plus personne ne voudra travailler.
Mais le but, c'est d'en arriver là, je pense, mais alors là, ça fait un peu
complotiste. Il faut avoir envie de travailler pour travailler.
Non, mais chez nous. Les élites n'ont pas trop intérêt à ce que les personnes...
Mais est-ce que l'IA va faire ça?
Voilà,
justement.
Alors, voilà.
Allez-y.
L'IA, notamment, déjà, effectivement, il y aura beaucoup de métiers qui ne seront plus... qui disparaîtront. Mais je pense que les élites qui, eux, auront la maîtrise de l'IA et vont pouvoir s'en servir comme un outil, justement, pour asservir le peuple, comme ils l'ont souvent fait. Et c'est pour ça que l'écart se creuse. Et je crois qu'il y aura un salaire universel et qui fait que... Regardez, par exemple, juste une chose. À l'école, vous avez remarqué que tout le monde est bachelier. Même l'absentéiste des absentéistes est bachelier. Pour moi, c'est une volonté de l'État. C'est-à-dire qu'on ne veut plus
rétablir... Le wokisme est une volonté de l'État,
On ne veut plus rétablir l'excellence à l'école et on ne veut plus que tout le monde ait vraiment cette possibilité de montrer son intelligence. Donc finalement, on dit que tu ne saches pas écrire trois mots sans faire de faute, je te donnerai ton bac, je te donnerai tout. Par contre, en retour, tu vas te taire et accepter mon SMIC ou en tout cas mon salaire universel. Et ces personnes-là vont, ça va donner des Uberisations de la société, enfin Uber et plusieurs marques, qui vont faire des petits boulots et se dire, bon, finalement, je m'en sors bien avec mon petit SMIC qui tombe. Je peux m'acheter mon smartphone dernier cri quand même, hein, mais derrière, ben voilà. Donc alors, je pense qu'il y a quelque chose de ce
genre-là. Tant que les masses ex-laborieuses pourront être des masses consommatrices, ça ira.
Oui, voilà.
Mais Yuval Noah Harari, bras droit de Monsieur Claude Schwab, patron, président du Forum économique mondial, nous a bien dit que ces gens-là sont des inutiles. Et tout le monde le dit. Monsieur Attali l'a dit. Madame Clinton a dit en parlant des déplorables qui votaient mal. Donc, on arrive à la dépopulation. Il y aura des politiques populicides de masse. L'Afrique a été réticente, bravo à l'Afrique à l'injection. Mais chez nous, ça se passe mal et ça continuera à mal se passer. Et puis si les gens ne vivent en dessous du SMIC ou avec le SMIC, ils s'arrêteront de manger, c'est ce qu'ils font déjà.
Chère Stéphanie,
Je suis d'accord avec Jean-Luc Robert, la prison parfaite orwellienne, c'est notamment le salaire universel et la monnaie programmée, centralisée et périssable. Alors ça, c'est vraiment ma hantise, personnellement. Mais voilà. Et je voulais aussi revenir sur la désindustrialisation et parler de la fabrication de médicaments et des pénuries de médicaments. Il y a un cri d'alarme poussé par les pharmaciens, que je salue ici, et j'ai l'impression qu'il n'y a aucune décision politique qui est prise pour relocaliser les fabrications de médicaments, et ça devient vraiment problématique. D'ailleurs, on peut saluer Béatrice Rosen qui en parle régulièrement sur Twitter, mais ça, par exemple, c'est assez inquiétant.
C'est plus qu'inquiétant.
Non, il n'y a pas que ça, mais ça, c'est...
On crée la pénurie va s'installer.
Mais moins soigner les gens, c'est les laisser aussi crever.
Je parlais de dépopulation et de populicide. Ils veulent 500 millions d'individus sur la planète, avec une hyperclasse, et les autres seront condamnés à la mort lente. Et déjà, ceux qui pensent pas sont condamnés à la mort sociale.
Absolument.
Vous l'aviez fait remarquer sur certaines fiches Wikipédia.
Oui, bien Philippe. Sûr. Ah oui, sur votre fiche Wikipédia.
Qu'est-ce que t'en penses?
Il y avait une blague soviétique, justement, pour revenir, un patron soviétique du RSS fait visiter son entreprise à un patron américain. Et le patron américain regarde les gens, il dit, mais ils font tous semblant de travailler ici. Et le patron soviétique lui retorque, oui, bien sûr, mais nous, on fait semblant de les payer, quoi. Donc c'est un peu le système dans lequel on va, avec des emplois au lance-pierre mal faits ou...
Ubérisation de la société.
Voilà, et puis des salaires qui permettent plus de vivre décemment, parce que voilà, Michelin nous dit même le SMIC à la campagne, ça suffit pas, voilà. Et sans espoir que les choses s'améliorent, quoi. Voilà.
Mais je peux répondre juste à madame. Allez-y. Pour moi, c'est une politique de mondialisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les médicaments, c'est toute notre productivité qui se fait à l'étranger. On sait très bien que c'est la Chine qui emporte le gros paquet de tout. Et finalement, on n'est plus capable de produire presque un Doliprane en France, mais parce qu'on ne met plus, on n'injecte plus, on ne croit plus en la France. Et je pense que c'est tout simplement l'absence, finalement, de reconnaissance des valeurs françaises. Et c'est la politique de Macron, notamment, d'être mondialiste et de tout. Toujours finalement se dire, par facilité, on va acheter aux Chinois, on va acheter un tel.
Parce que c'est une politique, chers camarades, c'est une politique non seulement de déconstruction, mais de destruction de la nation.
Mais alors
puisqu'on est dans un processus de mondialisation.
Oui, mais s'il avait cette fierté française, cette envie qu'en France on produise des choses, eh bien il mettrait son énergie et son argent plutôt que d'aller signer des contrats à
des kilomètres.
Mais
bien sûr, bien sûr.
Voilà.
Merci à vous. On va passer à l'actualité, mais avant ça, les petites annonces.
La tête de la Commission européenne, qui est le poste le plus stratégique.
On fait des salles archi-combles, dont d'ailleurs les médias ne parlent pas, c'est assez curieux. J'ai fait des vidéos qui ont dépassé le million de vues.
Million.
Merci à vous d'être si nombreux, 5500 personnes ce soir pour ce débat passionnant. N'oubliez pas d'aller sur notre Tipeee Stream pour nous soutenir. Cette émission, c'est la vôtre. On est là tous les soirs pour vous, parce que vous êtes présents et parce que vous nous soutenez. Donc, premier top tendance, c'est quoi? Ah, Marine Le Pen. Marine Le Pen était ce week-end à Mayotte. Est-ce que vous avez pu voir ça, cher Jean-Michel?
Non.
Vous n'avez pas vu?
Non.
Elle était habillée en tenue locale. Alors, regardez, allez, comme elle est belle.
Ah, elle est pas mal, oui, c'est coloré au moins. Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, ça, de Marine Le Pen à Mayotte?
Elle est dans son rôle de femme politique, elle doit aller sur le terrain.
Est-ce qu'il y a justement un changement au Rassemblement National? C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu voir Jean-Marie Le Pen à Mayotte il y a 30 ans?
Il était beaucoup plus ostracisé, il y avait quand même le plafond de verre, c'était le monstre des monstres, n'oubliez pas.
Qu'est-ce que ça signifie, après vous?
Ça signifie que Marine Le Pen risque d'être la prochaine présidente, mais je pense qu'elle aura quand même, non pas, peut-être pas vendu tout à fait son âme au diable, mais qu'elle aura fait beaucoup de concessions, mis beaucoup de vin dans l'eau, de l'eau dans le vin paternel.
Qu'est-ce que t'en penses, Stéphanie?
Moi, je pense que Marine Le Pen, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, ça fait un peu... Je fais des leçons aux autres, mais c'est pas ça. Hein. C'est quand même sur la mise en scène politique, c'est le personnage, il y a une mise en scène, hein, donc chacun endosse un rôle, et c'est le personnage qui joue le rôle de Niafron face à Guignol. Et...
Ah bon ? Rien que ça ?
Bah, pour moi, oui, elle est installée là, dans son rôle, pour arriver systématiquement dans le final au présidentiel, et pour faire élire le candidat d'en face. Enfin, c'est...
Ah non, peut-être pas.
Je crois pas.
Peut-être
mais...
pas. Là, ce coup-ci.
Plus maintenant.
Pourquoi, mais pourquoi ? Enfin, je ne vais pas prendre la place.
Allez-y, vous n'êtes pas d'accord, dites-nous pourquoi.
Mais je ne comprends pas pourquoi, dans quel but elle ferait ça.
Ah non, mais ce n'est pas elle.
Ça ne sert pas à ses intérêts.
Non, ce n'est pas elle, c'est elle qui...
C'est l'idiot utile, c'est l'idiot utile de Macron.
C'est un peu ce que je veux dire, voilà.
L'éternel second.
L'idiot utile à son insu.
C'est Poulidor, quoi.
À son insu.
Oui, Poupou, absolument. Je vois que vous avez de la culture, cher camarade.
Pourquoi elle ferait l'idiot utile volontairement de Macron? C'est à son insu.
Est-ce qu'elle n'est pas achetée?
Non, je pense qu'elle est venue, en fait...
Achetée par qui?
Elle est subrepticement macroniste.
C'est-à-dire
sans le savoir, bah, c'est-à-dire qu'elle succédera à M. Macron, qu'elle fera un peu comme Mme...
Vous pensez qu'elle va succéder à M. Macron ?
Ah, je pense, oui. Elle risque, en tout cas. Elle fera un peu comme Mme Meloni, qui a trahi un certain nombre de ses engagements de campagne. Donc, Mme Le Pen, encore une fois, va mettre beaucoup d'eau dans le vin paternel.
Est-ce que vous croyez ce cordon sanitaire, cher Jean-Luc Robert, enfin, cette fameuse arc républicain qui fera qu'elle ne sera pas élue ?
Non, moi je crois qu'elle sera élue. Oui, je pense qu'elle sera élue. Je pense qu'elle sera élue. Ça sera sa quatrième présentation, c'est ça, hein. Oui. C'est beaucoup.
Oui, oui.
Elle est persévérante. Oui. Je pense qu'elle sera élue par.
Vous aimez bien, vous, Marine Le Pen ?
Oui, j'assume. J'assume.
Très bien, voilà.
Bah, j'aime bien. Bon, je sais pas, c'est, je veux dire, je trouve que Bardella, notamment.
Je pose la question.
Non, Jordan Bardella, notamment, est très crédible dans son nouveau rôle de président du Front, du Rassemblement National, faut pas dire Front National. Et ce qui est hyper important, je veux juste dire par rapport à Marine Le Pen, c'est que vous savez quand même que les personnes qui vivent en Outre-mer votent massivement pour Marine Le Pen.
Massivement.
C'est pas pour rien.
70%.
Posez-vous la question.
C'était un rejet de Macron ?
Moi, je viens... Non, je ne crois pas. Alors, moi, je viens d'Outre-mer.
Je
ne veux pas parler. Je ne veux pas parler au nom des personnes qui viennent d'Outre-mer parce que je viens d'Outre-mer.
D'accord, mais...
Bon.
Mais vous avez sûrement un début de réponse.
Les personnes qui viennent d'Outre-mer, étonnamment, sont patriotes. Étonnamment, si je puis dire, pour les personnes qui pensent qu'elles ne... Non.
Moi, ça ne me surprend pas.
Non, ça ne vous surprend pas. Bon, et quand on est patriote et qu'on voit la politique de Macron...
Peut-être des Français comme les autres.
Quand on voit la politique de Macron, parlons pas de la politique immigrationniste, hein, c'est presque un calcul de sa part. Qu'est-ce qu'on pense en tant que patriote ? Bah, on se dit, où va la France ? Alors, vous se dire, mais des tom-toms, ils suivent ça de loin, ils sont pas trop soumis...
Donc non, ils ont quand même le Suriname...
Ils ont quand même, voilà, de plus en plus, c'est une porte d'entrée, c'est un cheval de Troie, comme on en a parlé.
La
Guyane, cheval de Troie. Et qu'est-ce qu'ils vivent ? Eux, ils veulent garder, ils sont fiers. Vous savez, un Antillais, même s'il a sa nationalité et tout ça, il est fier d'être français. Oui. Même si, effectivement, on dit c'est l'outre-mer, les Antillais sont fiers d'être français et revendiquent cela. Et cette fierté, ben, elle est en train d'être submergée, justement, par une certaine immigration. Alors, pas toute l'immigration, mais, et donc, ils votent Marine Le Pen pour rester français et pour pouvoir, voilà. Donc, moi, ça ne me surprend absolument pas.
Merci à vous, voilà, Jean-Luc Robert.
Moi, je fais une remarque un peu dans le désert, mais je considère que Mayotte n'a rien à voir avec la France et que la France doit se débarrasser de Mayotte.
Ah, on parle de la Guadeloupe et de la Martinique.
Si.
Pourquoi, laissez-le parler.
Qui a été rattaché dans les années 70, pour moi, ce ressort du néocolonialisme. Il y a un référendum qui a été fait à Mayotte, mais on n'a jamais demandé aux Français leur avis. C'est un territoire qui est très éloigné de la France culturellement, par la région aussi. Contrairement aux autres dom-tom, hein, il y a absolument aucun problème là-dessus.
Oui, voilà.
C'est Mayotte particulièrement qui, pour moi, n'a rien à faire.
Mais est-ce que ça permet pas d'avoir
des
espaces maritimes
Le
référendum, c'était dans toutes les Comores. C'est les Comores qui sont prononcées. Toutes les Comores. Et Mayotte a refusé de...
Enfin bon, c'est comme si on avait fait un référendum en Algérie et que certaines villes avaient dit non, on les garde. Enfin, je veux dire, ça ne tient pas la route, quoi, ce raisonnement.
Donc on aurait pu garder le Sahara, quand même.
Bah, on aurait pu garder le Sahara, il y a du pétrole, voilà. Puis on aurait fait voter quelques pieds noirs sur place et c'était bon pour nous. Voilà, ça, d'accord.
Serait un très mauvais signal envoyé, si je peux me permettre, parce qu'à un moment donné, à partir du moment où on subit une invasion, dans ce cas-là, on abandonne.
Non, c'est que Mayotte.
Mais monsieur Macron veut se débarrasser de la Nouvelle-Calédonie, veut se débarrasser même de la Corse. Alors, pas de soucis.
Est-ce que c'est l'extrême droite pour vous, Marine Le Pen ?
Non, mais non. Cette histoire, ce vocabulaire. Voyez, on est dans les questions de vocabulaire.
Parce que je l'ai retrouvé 40 fois dans votre vocabulaire.
Vous savez, l'autre jour, je vais vous dire un truc.
Je connaissais une fois, mais maintenant, c'est 40.
Attendez. Vous avez vu sa fiche Wikipédia ?
Est-ce que le parti de Marine Le Pen est un parti anarchiste? C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous avez l'impression que ce sont eux qui, entre guillemets, foutent le bordel à l'Assemblée nationale et veulent revoir la Constitution? Non. Quand vous écoutez le discours de Marine Le Pen, il est sensé, il est raisonnable, il est patriote. Elle dit qu'il faut la préférence nationale. Je pense qu'en catimini, beaucoup de Français sont d'accord avec cette idée qu'à un moment donné, on a dépassé nos capacités d'accueil et souhaitent cette préférence nationale. Mais ça fait pas de soi en soi un facho. Vous savez, l'autre jour, j'étais juste sur Radio Courtoisie et j'en parlais à certains amis. J'ai dit, je vais sur Radio Courtoisie. Vous savez ce qu'ils demandaient la première chose? Ah non, mais ce sont des fachos.
Alors qu'on est tellement gentil à
Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire?
C'est du délire absolu. Alors,
donc, je vais sur Radio Courtoisie, on me dit que je vais chez les fachos. Je dis, je suis fière d'aller chez les fachos. Voilà. Et donc, je suis un facho. Parce que Radio Courtoisie défend certaines valeurs, aime la France et tout. Donc, dès qu'on aime la France, on est taxé de facho. Donc, si on aime Marine Le Pen.
Et dès qu'on pense, on est un délinquant.
Voilà.
Donc, faut pas penser.
Merci à vous. Allez, deuxième top tweet. Ruffin. Pourquoi Ruffin? Ruffin serait le candidat le mieux placé de LFI pour les présidentielles. Qu'est-ce que vous en pensez? Ruffin. Est-ce que Ruffin pourrait être candidat de la France insoumise à la place de Mélenchon?
C'est beaucoup trop tôt pour faire des prévisions sur une élection qui va se passer en 2017. 2027, voilà. Et de toute façon, je pense que Mélenchon veut absolument y retourner. Qu'il pense qu'il a sa chance, parce que les deux dernières fois, il a loupé le deuxième tour à très peu de voix, à quelques centaines de milliers de voix. Et c'est pour ça qu'il fait tout un travail. Moi, je pense que tout un travail sur justement la communauté musulmane pour les incites, parce qu'il fait 80% des voix chez les musulmans. Mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas beaucoup voter. Donc là, Donc justement, ils veulent immobiliser pour la prochaine présidentielle pour être sûr là d'être au deuxième tour. Donc je pense que je suis convaincu que Mélenchon veut y aller. Ruffin, c'est un mec un peu sympa, mais Poutou, il a un côté méchant par contre. Non mais Ruffin, il a un côté sympa, c'est le mec tout le monde pourrait prendre un verre avec lui. Mais est-ce qu'il s'y ferait sérieux comme président de la République?
Rien, j'en pense rien, parce que ce sont des seconds couteaux, tout ça.
Justement, vous étiez au Figaro, vous étiez à VSD, vous avez connu ces hommes politiques. Qu'est-ce que vous,
Je m'occupais plutôt d'international, j'étais une sorte de soutier, vous savez, les Pakistanais qu'on envoie dans les tubes des centrales nucléaires, enfin autrefois. Donc on m'envoyait sur des théâtres où personne ne voulait aller. Pakistan, en Afghanistan, au Soudan, en Syrie, voilà. Mais c'est vrai que j'ai vu la nomenclatura du Figaro Magazine, qui était beaucoup bien pensante, très bien pensante. Et je n'aime pas la politique politicienne, personnellement. Enfin, maintenant, je suis bien obligé d'y revenir. J'ai écrit d'ailleurs deux livres sur M. Macron.
Ouais, un dernier, surtout là, sur M. Macron. Tiens, montrez-le, le dernier livre sur M. Macron, cher ami de la régie. Il travaille très bien aujourd'hui. Il est très bon. Imposture et trahison de Macron à Macron et compagnie.
C'est le joueur de flûte de Hamelin qui emmène justement ses petits rats et les petits enfants à l'abîme. De Macron à Macron, j'avais écrit déjà un premier tome, Imposture, en 2017. Et ben, ça s'est confirmé, consolidé. Monsieur Macron a été égal à lui-même. Et même, personne ne le dit, Monsieur Macron est un type formidable, extraordinaire, parce qu'il remplit son cahier des charges. Imperturbable, il n'a peur de rien. Peu d'hommes ont cette constance dans l'erreur, le cafouillage, l'échec, la faillite, mais lui, il l'a.
Chère Stéphanie, sur
Alors
Ruffin.
Moi, sur c'est Jean-Christophe Ruffin, c'est ça ?
Oui.
Oui. Que ce soit Ruffin ou Mélenchon, ça ne change pas grand-chose pour moi, et peu importe. Il n'est pas plus crédible à mes yeux que Jean-Luc Mélenchon, qui voulait courir avec une seringue derrière les individus. Et Ruffin, avec son passe sanitaire, je ne l'ai pas oublié, j'ai une bonne mémoire. Et je compte bien.
Et puis il a fait un petit plan com à l'époque avec Macron.
Voilà, il a fait un plan com. Et moi, j'ai quand même de la mémoire.
Sur l'usine Whirlpool.
Exactement. Très bonne mémoire de Mike Borowski. Ça aide.
Cher Jean-Luc.
Je pense que Mélenchon ne cédera sa place pour rien au monde. Je pense que c'est un ogre qui a vendu son âme au diable.
Absolument.
Je tiens juste à vous rappeler, vous savez qu'il y a des archives sur Internet. Si vous écoutez Jean-Luc Mélenchon, il y a 10 ans, il était vraiment dans une... Il fustigeait le voile. Il disait que c'était pas un habit républicain. Vous vous rappelez, ces vidéos existent sur Internet. C'était pas un habit républicain, que c'était honteux. Et aujourd'hui, il a vendu son âme au diable et évidemment, il défend tout ce que vous voulez, le voile islamique. Donc, il est prêt à tout, cet homme, pour arriver au pouvoir. Comme vous disiez, 80% de l'électorat musulman vote pour lui, et etc. Et donc, finalement, il n'a pas d'idée. Comme vous le dites, ce sont souvent des girouettes, les politiciens. De toute façon, il s'en fiche. Ce qui compte pour lui, c'est d'arriver à un but.
On avait... C'est pas eux qui tournent, c'est le vent.
Le vent, mais une girouette, tout. Mais... Vous savez, moi, ils prennent tous en référence De Gaulle. De Gaulle, lui, il était prêt à mourir pour son pays réellement. Il avait des valeurs et il s'en fichait d'être élu. Il a même remis sa place en jeu. C'était vraiment... Bon, lui, il avait fait la guerre. C'était vraiment un homme qui était prêt à mourir pour son pays et pour ses idées. Aujourd'hui, on a, avec tous les politiciens, l'inverse. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui n'ont pas d'idées vraiment. Vous avez parlé de Macron. Ben, on se demande toujours ce qu'il pense. Un jour, il pense vert, un jour, il pense rouge. On se demande. Mais en fait, il ne pense pas par lui. Il a des idées, mais ça ne l'intéresse pas. Ce qui compte, c'est la girouette, c'est de suivre le vent. Et lui.
Et surtout de détruire la France.
Voilà.
Et donc, bon. Merci. Troisième top tweet. Ah, France Inter. Ah, oui, oui. Pourquoi France Inter? Parce que Madame Adèle Van Riet, directrice de France Inter, a dit ces mots. Nous avons choisi de ne pas donner la parole, je te regarde toi, aux personnes qui contesteraient le réchauffement climatique. Donc tu ne pourras jamais aller
jamais de la vie. Jamais de la vie, je pourrais aller sur France Inter. Enfin, les radios
sur France Inter.
De France Inter et de tout Radio France et aussi des télévisions publiques. Et il faut bien dire, c'est une charte tout à fait publique.
Mais c'est quand même scandaleux.
C'est une charte publique qui a été signée par les journalistes. Donc c'est complètement effarant. C'est vraiment la doxa, c'est Lysenko en fait, hein, pour revenir à l'Union soviétique, hein, Lysenko qui était un ingénieur à l'époque de Staline, qui professait des théories scientifiques complètement aberrantes sur l'agriculture, mais il était soutenu par le pouvoir, et donc il a eu tous les moyens, il a pu imposer ses théories fumeuses, c'est uniquement quand Staline est parti qu'il a...
Alors on va être très court, parce qu'il y a 5 minutes.
En deux mots, ce sont les nouveaux censeurs de la gauche. Vous savez bien qu'ils ont voulu, il y a eu un journaliste récemment, pas France Inter en tout cas, sur une chaîne qui a dit qu'il fallait interdire Zemmour, comme en Belgique. Donc ce sont des censeurs, ils sont très forts pour ça. Donc en fait, pour eux, la liberté d'expression, c'est leur parole et leur voix. Et bon, on n'est pas du tout dans...
Et le reste, c'est...
Voilà. Et le reste, c'est... Voilà.
Chère Stéphanie.
Et une des figures de France Inter que je salue, Sophia Aram, qui voulait quand même s'en prendre à nous, les non-injectés. Donc moi, là aussi...
Ah oui, qu'est-ce qu'elle avait dit?
Il y avait un tweet...
C'était des cons, je sais pas quoi.
C'était de l'humour pas drôle, hein, parce qu'il y a des humoristes pas drôles. Ça aussi, ça fait partie de la nouvelle société. Je suis désolée, mais j'avais été un petit peu choquée par cette intolérance, en fait, inversée.
Bah justement, est-ce que ça, c'est une forme de wokisme?
Bien sûr, la cancel culture, c'est le wokisme paroxystique aussi. On interdit aux autres de parler puisqu'on a la vérité, puisqu'on est le bien, le camp du bien, bien absolu. Donc les autres sont forcément immoraux, fascistes, d'extrême droite. On est entré quand même dans un monde manichéen, c'est-à-dire binaire. Il y a les bons qui pensent bien, et puis il y a les mauvais qui pensent mal.
Qu'il faut censurer.
Et qui sont censurés, pénalisables. Depuis, j'ai vu que pour apologie de terrorisme, il y a eu plus de 700 procédures engagées depuis, dans les 6 derniers mois. On n'a plus le droit de porter un regard critique sur les événements contemporains. 700. Donc c'est des délits d'opinion. 700.
Et France Inter est porteur de ça. Je suis désolé de le dire. France Inter, c'est vraiment
dans le service public.
C'est la voix de son maître.
Mais c'est le service public. C'est financé avec notre argent. Mais
et la bénédiction de l'ARCOM.
Voilà. Mais ils sont très très loin d'être impartiaux. Et justement, ils reprochent à des chaînes comme CNews ou d'autres d'être justement. Mais ce sont les premiers à ne pas respecter la pluralité des idées.
Merci à vous, chers amis. Merci beaucoup, cher Jean-Michel Vernochet, journaliste. Il a écrit, montrez notre ami Jean-Michel Vernochet, voilà, l'empire du mensonge et les nouvelles dictatures, le signe de la bête, voilà, ce QR code, ouais, c'est pour le coup, c'est un effet.
La bête de l'événement est arrivée.
Elle est arrivée, comme l'a dit Monsieur Macron. Et le deuxième livre sur Monsieur Macron, Imposture et trahison de Macron à Macron Compagnie. Où est-ce qu'on peut vous voir, cher Jean-Michel Vernochet?
Eh bien, il y a un petit fil d'actualité, aussi un fil de guerre, qui s'appelle Europe, insurrection civique, Ça doit être très facile.
Sur YouTube.
Sur YouTube.
Europe, insurrection
civique.
Civique.
Et puis également, il y a au Québec Brochu TV.
D'accord.
Toutes les semaines, je fais une intervention.
Est-ce que vous bientôt, on pourra vous relire sur un nouveau livre?
Oui. Je prépare un livre et même deux livres.
Dites-moi sur quoi ?
Un livre savant universitaire et un livre grand public sur le wokisme.
D'accord.
Et si vous voulez, d'ailleurs, je peux vous proposer un article inédit.
Ah, sur géopolitique profonde. Ah ben, j'en parlerai.
Voilà. Si ça vous dit, il est prêt. Il suffit que je remette la dernière main, je le relise et puis voilà.
Très bien. Ben merci beaucoup, cher Jean-Michel Vernochet. Stéphanie Reynaud, comédienne, journaliste, Tribune Libre. Donc, demain, c'est Ariane Bilran, c'est ça ?
Oui, absolument.
Et ensuite ?
Alors, il y aura Michel Maffezoli en fin de semaine. Ah. La semaine prochaine, le lanceur d'alerte, Jim Leveilleur.
Oui.
Une grosse communauté.
D'accord. Et qui encore ?
Et puis ensuite, il y aura plein d'autres. Ça me vient de m'échapper, mais ça me reviendra.
Et est-ce une pièce aussi en ce moment ?
Ah oui, une pièce, mais surtout je suis régulièrement à la Cité de l'Histoire.
D'accord.
Les comédies, nous allons les reprendre, mais en province, j'aurai des dates, je vous les annoncerai, je viendrai vous en parler.
Bon,
ici.
De toute façon, tu reviendras encore. Merci
volontiers,
à toi, chère Stéphanie. Jean-Luc Robert, psychologue, je n'aime pas ces frites-là, qui parle de wokisme et qui parle aussi de l'enfant, comme voilà. L'éducation des enfants.
On veut déconstruire le patriarcat, comme vous le savez. Le patriarcat, c'est celui qui va venir et à minimum donner des directives et tout simplement ordonner, éduquer l'enfant. Voilà. Et aujourd'hui, avec l'éducation positive, eh bien, il faut tuer le patriarcat. Il ne faut plus être autoritaire parce que l'autorité, c'est mauvais. Donc, il faut castrer l'enfant,
le père. Cher Jean-Luc,
et le père, dans la société, quand même, a une fonction et a un sens. Donc, moi, je défends cela. Et j'explique que l'éducation positive, croire en l'éducation positive, c'est-à-dire faire des enfants des 12 agneaux, etc., ne jamais leur dire non, etc., mène à la catastrophe. Donc, on peut me trouver sur Amazon. Voilà.
Alors,
je n'aime pas ces
frites-là. J'ai beaucoup de commentaires qui me disent, mais est-ce que Jean-Luc Robert est sur Twitter ? Ben, visiblement, non.
Ben, je le suis, mais je ne peux pas être sur tous les réseaux.
Je ne l'ai pas vu.
Non, j'y suis, mais je
suis pas... Sur un faux nom,
alors. Je ne suis pas actif. Par contre, je suis très actif sur LinkedIn.
Ah, LinkedIn
j'ai 30 000 abonnés. Ah, LinkedIn et TikTok, que je viens d'ouvrir. Et je poste régulièrement, d'ailleurs, des extraits de cette émission que vous retrouvez sur TikTok.
Merci beaucoup, cher Jean-Luc Robert. Et enfin, Philippe Perlin, l'homme à la cravate d'or, économiste. Tout ce qui touche se transforme en or, surtout les bitcoins. Donc,
chacun peut le faire aussi.
Édito la semaine prochaine.
Ouais.
Toujours pas de nouveau livre.
Non, mais ça va arriver. Ça va arriver
bientôt.
Mais une critique de livre, j'ai parlé tout à l'heure du livre d'Anthony Bivor sur la révolution russe et la guerre civile. Donc j'ai publié un article sur mon compte Instagram qui est réservé à l'actualité des livres et de la culture. Donc chacun peut aller le retrouver.
Et on retrouve
plus
Philippe
un article sur l'immobilier, sur le marché entre guillemets immobilier, parce qu'il est complètement dysfonctionnel et il subit un assaut de réglementation. Donc j'en parle dans Géopolitique profonde. Voilà, pour ceux qui s'intéressent, qui veulent comprendre ce qui se passe. Voilà.
Merci en tout cas pour cette excellente émission. Il y avait 5563 personnes en même temps. Merci à vous d'avoir été si nombreux. Nous, on se retrouve demain avec François Asselineau pour une spéciale élection européenne. Vous saurez tout demain soir. Allez, passez une bonne soirée. À demain. Salut, ciao.
Vous voulez nous soutenir ?
Oui.
Gratuitement ? Alors abonnez-vous et activez la cloche. Merci.
Mais je vous en prie.